Cube Radio.
Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
Richard Martino.
Politiquement incorrect. Incorrect.
Cube Radio.
Hey, c'est vendredi, c'est-tu le fun? C'est vendredi. Qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine? On a-tu des parties? On va-tu sortir dans des bars, voir des amis? Oh non, c'est vrai. C'est vrai. Avant, il y a quelques semaines de ça, dans la vie d'avant, je disais, c'est vendredi, c'est super cool, on peut se coucher tard ce soir. Mais là, la moitié des gens sont chômeurs, fait qu'ils peuvent se coucher tard n'importe quand dans la semaine. De toute façon, demain, on sortira pas comme j'ai fait lundi, comme j'ai fait mardi. Donc, que ce soit le week-end ou pas, ça change pas grand-chose, hein, finalement. Ça change strictement rien. Il y a des gens qui lisent mes statuts Facebook ces temps-ci, puis qui disent « T'es déprimant, Richard. T'es déprimant. » Je suis le messager, moi. Je suis pas déprimant, je veux dire. Lisez les journaux, regardez les nouvelles. On est censé rigoler, je sais pas, je suis censé faire des jokes, pouette-pouette, je sais pas. Tiens, tout va très bien. Madame Marquise. Ah ouais, Achille Pan, moi, ça, là.
C'est... Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien.
Tout va très bien. Bien.
Pourtant, il faut
que je vous dise.
On déplore un tout petit rien. Un incident.
Est-ce que vous connaissez cette toune-là? Tout va très bien, Madame la Marquise. Je vais vous résumer à peu près. Là. Je n'ai pas vraiment les paroles devant moi, mais c'est Madame la Marquise n'est pas chez elle. Fait qu'elle appelle son valet pour savoir est-ce que tout va très bien. Il dit tout va super bien, sauf que le chat, mettons, je grossis, c'est pas vraiment les paroles, mais sauf que le chat a laissé tomber une assiette. Mais sinon, tout va très bien, c'est parfait. Là, rappelle le lendemain. Alors, tout va très bien. Oui, mais tout super bien. Vous savez, l'assiette est tombée sur la bougie qui est allumée, mais... Tout va super bien, parfait. Le lendemain rappelle, puis tout va très bien. Il dit oui, mais vous savez, la bougie est tombée sur le rideau. Le rideau est en feu, mais sinon, tout va très bien. Finalement, elle apprend, Madame la Marquise, que le château est passé au feu complètement. Mais tout va très bien. Madame la Marquise, ça va super. Vous voulez rire? Vous voulez rigoler? Mon ami ici, Alexandre Moranville-Ouellette, m'a appris quelque chose ce matin. Je pense que c'est la plus grande joke de l'année. Alexandre, salut.
Salut, Richard.
Alors, ici, il y a un briefing. Et on fait le point sur le coronavirus tous les jours. C'est François Legault qui est premier ministre, à côté de Horacio Arruda. C'est pas n'importe qui. Horacio Arruda, directeur de la santé publique. Alors, quand il parle, M. Arruda, on l'écoute parce qu'il connaît, tu sais, il connaît son affaire, là. C'est pas un fou, c'est un médecin. Il a étudié longues études, etc. Alors, qui fait le briefing quotidien aux États-Unis en disant voici où on en est rendu, voici ce qui arrive avec le coronavirus. Qui fait le briefing quotidien, Alexandre?
Là, depuis hier, on a une jolie surprise, hein? C'est Jared Kushner. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le gendre de Donald Trump, pour qui une de ses seules qualifications, c'est d'être né d'un père très riche et évidemment d'avoir marié Ivanka Trump, la fille de Donald Trump.
Mais Alexandre, tu niaises.
Non.
C'est lui qui fait le briefing.
Pas juste le briefing, il semblerait que ce soit qu'il soit nommé là, maintenant à la tête de la réponse contre la pandémie là, des États-Unis.
OK, écoutez ça, là. Attends, c'est le gendre du président qui est un sombre crétin.
Mais il n'a aucune expérience médicale.
Aucune expérience médicale. Et c'est lui maintenant qui est à la tête du team, là.
Ouais, on sait pas. Et son poste est un peu flou, là. On sait qu'il répond maintenant aux questions, qu'il travaille avec l'équipe de la chaîne d'approvisionnement. Il dit qu'il veut privatiser tout ce système-là. Puis qu'il y a des gens dans le privé qui sont des gens très brillants, très brillants. C'est également lui, on va le dire, hein. Quand Andrew Cuomo, là, le gouverneur de l'État de New York, a demandé le plus de ventilateurs pour garder des gens en vie. M. Kushner a répondu là, maintenant que c'est lui qui dirige ça. Il dit « J'ai fait mes propres courbes. Je suis rendu très informé et mes courbes disent que vous ne dites pas la vérité. C'est pas vrai que vous avez besoin d'autant de ventilateurs. » Si Jared Kushner le dit... Ça doit être vrai, là.
Non, mais j'hallucine. Je veux dire, c'est digne de la Corée du Nord, là. Je veux dire, comme un dictateur qui met son gendre à la tête d'un task force contre le coronavirus et lui va dire à Andrew Cuomo, tes suppositions, tes projets, ouais, tes scénarios, tes projections ne sont pas bonnes. Moi, j'ai fait mes propres projections.
Ben oui.
Puis j'arrive à la conclusion qu'on n'a pas besoin de tant de ventilateurs.
Oh, et encore mieux que ça. Encore mieux que ça. Parce que M. Kouchner, ça a l'air qu'il était déjà impliqué, si on veut, dans cette crise-là, là, M. Kouchner. Il semblerait que ce soit lui qui, là, c'est les informations du New York Times que je rapporte, lui qui, au début de la crise, à un certain moment donné, peut-être vous en souvenez pas, dans toutes les absurdités qu'il dit, mais Donald Trump a dit que Google allait lancer un site qui allait lier tous les Américains pour les tests sur le coronavirus. Un site qui, bien évidemment, ça a été nié. C'était pas vrai du tout. Il semblerait que ce soit lui qui ait dit à Trump de dire ça. Puis on va... Il y a d'ailleurs un autre petit truc. Selon les informations de The Atlantic, le frère de Jared Kushner était en train d'essayer de construire un site comme ça et mystérieusement, le projet a été scrappé. Alors, bon, d'autres grands succès dans cette crise-là pour Jared Kushner.
Il y a les gens qui m'ont dit « Oh, vous êtes anti-Trump » et tout ça. Non, non, arrêtez. Allumez, là. C'est pas une question de droite et de gauche. Vous êtes des gauchistes anti-Trump. Allumez, là. Ça n'a rien à voir avec la gauche puis la droite, là. C'est un sombre imbécile, Jared Kushner. Puis c'est lui que le président a nommé pour faire les briefings, comment on pourrait dire en français, mais
les mises à jour,
les points de presse, les mises à jour quotidiennes sur le coronavirus. Fantastique. On se quitte sur, on s'en va à la pause sur un petit coup de marquise, on va dire. Oh, tout va super bien. Bon vendredi.
Tout va très bien.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
Politiquement incorrect.
Et oui, c'est rare de parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, on n'est pas sorti du bois, malheureusement.
On n'est pas sorti du bois, et pas juste qu'on n'est pas sorti du bois, c'est ça joue dur partout, dans le monde des affaires, dans le monde des banques, dans le monde de l'immobilier. Puis j'ai des bons exemples pour toi ce matin. Okay. Évidemment, on parle beaucoup d'équipements médicaux, là. Et là, on a une compagnie à Québec qui s'appelle Pantera Dental qui fabrique les fameuses visières, là. Tu sais, pas celles de fortune, mais les vraies visières qui servent à protéger le monde et nos anges gardiens, là. Et lui, il faisait affaire avec 40 fournisseurs depuis un bout de temps. Maintenant, là, écoute, les fournisseurs qu'il appelle, là, les Américains ont passé la gratte. C'est-à-dire qu'ils ont déjà acheté à peu près tout l'inventaire. Puis lui, il restait quelques fournisseurs à qui il avait parlé, dont une qui était située à Toronto, qui avait fait une entente. Puis du jour au lendemain, il s'est fait dire, écoute, t'es mieux de payer maintenant parce que les Américains, là, ils payent maintenant.
Ah oui.
Donc, il n'est plus question de, tu sais, je te fais une facture puis tu me payes dans 60 jours, là. Il faut que tu payes maintenant pour obtenir ta marchandise. Donc, ça se passe dans tous les secteurs. Actuellement, ça, on a vu avec la bataille des masques.
Yves, on appelle ça au plus fort la poche.
Ah oui, puis l'argent, c'est ce qui est déterminant aujourd'hui, là. Donc, les entreprises, là, doivent vraiment sécuriser une bonne liquidité pour être capables de passer à travers. Et tu sais, quand on regarde dans le secteur des affaires, où ce que ça joue dur, bien évidemment, ça joue dur aussi auprès des banques, là. Ce matin, là, c'est sorti, là, le report des paiements hypothécaires, là, au Canada a atteint 500 000. Donc, les gens là qui ont besoin de souffle là, pour ne pas payer leur hypothèque là, et tu sais, tu regardes ça aussi, si tu prends le 500 000 au Canada, au Québec là, déjà là, on le dit ce matin là, la Banque nationale a eu presque 24 000 répits d'hypothèques depuis le début de la crise. Si tu rajoutes Desjardins qui en avait déjà eu 10 000, donc toute l'idée du rapport là est tu sais, les gens là sont prêts à la gorge s'ils n'ont plus de job.
Ben
mettons
oui.
des membres du couple qui a perdu son emploi, ben c'est sûr là, qu'ils sont serrés. C'est surtout qu'ils s'y vivent d'une paye à l'autre avec la situation actuelle. Et juste rappeler quelque chose qui est intéressant. Il y a un organisme qui s'appelle TransUnion qui fait des bilans sur la moyenne des balances ou des soldes que les gens ont sur toutes sortes de choses, là, le prêt auto, la carte de crédit, etc. Écoute, si tu prends juste la moyenne au Canada actuellement pour les prêts hypothécaires, le solde est 270 000 à peu près. Le prêt auto, c'est à peu près 30 000 $ les cartes de crédit, c'est souvent 4 000 $
Écoute, donc, là, tu te ramasses là, du jour au lendemain, tu n'as plus de job. Là, à un moment donné, il va y avoir l'aide gouvernementale, mais c'est pas arrivé. Fait qu'entre-temps, là, il faut que tu payes ça. Il faut que tu payes ta carte de crédit, il faut que tu payes ton prêt auto, il faut que tu payes ton hypothèque. Est-ce que les banques, là, il y a des gens qui se tournent vers les banques en disant, mais faites preuve de compassion, là.
Ah, ça, c'est déjà fait. Bon, là, évidemment, les banques ont une grande pression sur eux, là. Mmh. Surtout particulièrement sur le taux d'intérêt sur les cartes de crédit, là. Tu as vu hier, Desjardins a annoncé, là, à partir du 8 avril, qu'il diminuait le taux sur les cartes de crédit à 10,9%. Évidemment, on s'entend pour dire que ça va être seulement pour les clients qui sont en situation de trouble. Ce ne sera pas n'importe qui va pouvoir profiter de ça. L'autre affaire, tu ne pourras pas transférer. Mettons, tu as une autre carte de crédit, puis tu avais 10 000 $ dessus, puis tu la transfères sur cette carte-là pour payer moins d'intérêt, tu ne pourras pas faire ça.
Okay.
Il va y avoir quand même des limitations, mais la pression sur les banques là, va être énorme au cours des prochains jours. Là.
Tu parlais des gens qui ont de la difficulté à payer leurs hypothèques. Là-dessus, il y a des propriétaires d'immeubles à logement. Puis là, il y a comme une pétition qui circule en disant aux locataires, payez pas votre loyer, mais c'est très irresponsable parce qu'à un moment donné, les propriétaires d'immeubles à logement, puis à un moment, c'est pas tous des méchants exploiteurs. Puis eux autres aussi, il faut qu'ils payent leur hypothèque, là.
Ah, c'est clair. Mais c'est sûr que le message de M. Legault à l'effet de, tu sais, le 2000 $ là, que les gens vont recevoir prochainement va probablement aider, là, à payer les loyers parce que c'est quand même, il y a beaucoup de gens, là, tu sais, qui sont propriétaires de petits triplex. C'est pas tous des propriétaires avec les 500 appartements, là. Donc, je pense qu'il y a déjà une volonté des propriétaires, là, mais ça pourra pas durer très longtemps. Puis, je voulais te parler justement, parlant de propriété, là. Écoute, il y a eu une règle qui a été fixée là, clairement, là, tu sais, que c'était fortement recommandé et même, en fait, plutôt déconseillé par Québec, là, de faire des visites libres puis de visiter des maisons en ces temps-ci.
Non, non, ben, écoute, j'espère, Yves, qu'au moment où on se parle, il n'y a plus de visites libres, il n'y a pas de visite de maison, j'espère.
Ben, il faut que je te conte quelque chose. Là. Nous, là, du Proprio, qui est un organisme qui est dans le fond qui permet aux gens de vendre leur propriété sans courtier. Là. Mmh. Or, il ignore toujours les règles de la visite à maison. Notre journaliste Philippe Orfali a fait plusieurs appels pour se mettre en mode acheteur. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les vendeurs des maisons là, prenaient des rendez-vous pour aller visiter les maisons.
Incroyable. Incroyable. Donc, tu laisses des étrangers rentrer chez toi, là.
Ben exactement, puis peut-être pas juste une personne. Quand tu visites la maison, il est bien possible que tu arrives à 2-3. Donc, je ne sais pas si le gouvernement va regarder ça, mais je pense que c'est une règle qui... ils ont de la misère à appliquer la règle partout. Donc,
écoute, les agences d'escorte, ça a l'air que ça roule full pin. Full pin! Il y a des gens qui vont voir des filles dans des motels actuels, puis il y a des filles qui acceptent de coucher avec n'importe qui comme ça, le premier venu pour gagner leur vie. Écoute, c'est quand même incroyable et récalcitrant. Et tu parlais de la pression sur les banques. Écoute, parce que ce qui est fâchant là-dedans, c'est que tous les programmes d'aide, là, les programmes d'aide du fédéral puis du provincial et tout ça, finalement, au bout du compte, ça va bénéficier aux banques, parce que les gens, quand ils vont recevoir l'aide du gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer leur carte de crédit, ils vont payer leur prêt auto, comme tu disais, ils vont payer leurs prêts hypothécaires, puis ça, ben, c'est les banques au bout du compte qui vont bénéficier de cette aide-là. Donc, regarde, on vous a aidé, pouvez-vous nous aider aussi? C'est ça qu'on demande aux banques.
Puis, pense aussi, tu as les particuliers, mais tu as aussi les petites entreprises au Québec, on le sait, là, c'est quand même le cœur de notre industrie au Québec. Là. Toutes ces entreprises-là là, qui vont aller voir les banques, là, normalement, les banques là, vont se faire des garanties de prêt par les gouvernements. Donc, les banques ne perdront rien. Là.
Ben
donc,
oui.
Si par exemple, toi, tu as une garantie de prêt de 40 000 $ du gouvernement, c'est de l'argent qui va aller directement aux banques. Les banques prennent pas de risque.
Ils prennent absolument pas de risque. Et écoute, on parle d'économie. Hier, je veux le dire, là, vous avez fait un job incroyable sur le Québec Inc. qui est en train de perdre des milliards de dollars. Puis on voyait toutes les grosses entreprises et tout ça. Hey, tu regardes ça, c'est quand même inquiétant, là.
Ah, c'est sûr que à la fin de tout ça, là, on va on va se demander le Québécois, qu'est-ce qui restera du Québécois puis nos sièges sociaux. Là. Prends juste le dossier de Air Canada puis Air Transat. Là. Écoute, Air Transat vaut presque plus rien. Air Canada qui est sur le dos. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec Transat au Québec?
Bien sûr, l'achat là, d'Air Transat par Air Canada, on s'entend que c'est comme c'est mis sur la glace totalement.
Bien, normalement, jusqu'à tout récemment, le PDG de Transat, Eustache, disait qu'une entente, c'est une entente, là. Et donc, qu'il était prévu que Air Canada paierait 18 $ l'action pour acheter Transat. Mais l'action, écoute, elle vaut presque plus rien. Donc, je sais pas, il va y avoir beaucoup de batailles d'avocats.
Ben oui, puis je lisais hier dans votre tableau que vous avez fait, qui était très bien fait. Ceux qui s'en sortent bien, c'est par exemple l'entreprise Good Food. T'sais, tu reçois des boîtes avec de la bouffe, là, c'est la livraison de bouffe à maison. Ça fonctionne bien parce qu'effectivement, les gens maintenant ont peur d'aller à l'épicerie, ils ont peur d'attraper le virus, fait qu'ils s'abonnent à ce genre de service-là où une fois par semaine, on t'envoie de la bouffe à maison. J'imagine qu'eux autres, là, ça va très, très bien. Même, ils embauchent.
Oui, puis tout le secteur alimentaire là, est vraiment là, le domaine là, de prédilection là, pour les petits investisseurs parce qu'ils voient très bien que ces entreprises-là. Mais il faut quand même oublier que c'est toujours circonstanciel, tout ce qui se passe maintenant. Il y aura une reprise à un moment, puis l'économie va repartir, puis les secteurs, mais comme à quel niveau on va repartir? Ça va être là la question. Est-ce que les
tout
gens vont refaire leur modèle d'affaires différemment?
C'est incroyable, mais quand même, il y a quelques semaines de ça, il y a seulement quelques semaines, Yves, c'était comme un autre monde. Les jeunes avaient le gros bout du bâton avec la pénurie de main-d'œuvre. Écoute, il y avait l'embarras du choix au point de vue des jobs. Et là, ben, c'est tous les jeunes. Moi, tous les jeunes que je connais ont tous perdu leur job. Pourquoi ils travaillaient dans un bar, travaillaient dans un resto, ils n'ont plus de job. Écoute, tout a changé sur l'espace d'un tisane. Pouf!
Puis je pense que ce qui est important, là, moi, je regarde, j'ai des enfants là, qui sont des adolescents et des jeunes adultes. Là. C'est la première fois que les milléniaux font face à un choc financier.
Ouais.
Et ça, là, eux autres, ils vivaient un peu sur voyage en Asie, voyage, oui. Écoute, 2-3 jobs, etc. Là, aujourd'hui, ils voient toute la restriction que ça représente, justement, d'être peut-être plus avoir d'argent ou de voir leurs revenus diminuer. Mais c'est quand même très souci parce que c'est probablement eux qui vont payer toute la note. Là.
Ben, tout
il va avoir une note à ça dans 10-15 ans. Là.
Ben écoute, il va avoir moins de programmes sociaux. Les gouvernements vont serrer la ceinture. Puis ces jeunes-là, écoute, une pensée pour les jeunes, une pensée pour mes petits lapins. Des fois, je ris de mes petits lapins. Mais là, vraiment, pour les jeunes, c'est vraiment pas facile. Puis une pensée pour eux. Merci beaucoup, Yves. Continuez votre bon job à Section Argent. Merci Yves Daou, directeur à Section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Je lisais dans le magazine The Atlantic, la crise économique. Et là, vous allez dire, il est bien déprimant. Mais là, je vous dis la réalité. Là. On va s'en sortir. Mais actuellement, la crise économique que traversent les États-Unis, on dit que c'est la plus grosse crise économique de leur histoire. C'est une crise plus importante que celle de 1929. Où on avait transformé Central Park en bidonville, où on servait de la soupe populaire à l'époque où les boursiers se jetaient en bas du 22e étage parce qu'ils voyaient leurs actions fondre totalement. Mais on dit que c'est encore plus important, mais tout va très bien, Madame la Marquise. On va s'en sortir quand même, mais il faut vraiment faire preuve de solidarité et garder le moral et avoir du courage.
Politiquement incorrect.
À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
Salut Richard.
Salut Jean-François.
Bon, on n'a pas le choix, mais ça a l'air qu'il faut en arriver là. Il faut serrer la vis aux récalcitrants, ceux et celles qui ne comprennent pas.
Écoute, encore, j'ai passé hier en auto, là, en me rendant au travail, puis je suis passé devant un café qui était ouvert. C'était plein de gens assis avec leur ordinateur qui ne respectent pas les consignes. Il y en a plein. Je viens de discuter avec Yves Daou, responsable de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec, qui me disait qu'il y a encore des visites de maisons. des visites libres de maison aujourd'hui, comme s'il n'y avait rien. Écoute, là, à un moment donné, il faut serrer la vis parce que le message ne passe pas. Donc là, on parle de géolocaliser les récalcitrants avec leur téléphone cellulaire. Il y a des gens qui vont dire, ça, c'est Big Brother, c'est l'État surveillance. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, je dis bravo. Puis si ça prend, là, s'il faudrait vous mettre une puce électronique dans le schtroumpif pour savoir où c'est que vous êtes, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'il va falloir faire à un moment donné. Et là, François Legault dit, on va donner des amendes de 1 000 à 6 000 aux récalcitrants. Il ne mérite, c'est tout ce qu'il mérite, a dit François Legault. Il n'a pas mis des gants blancs. Bravo. Écoute, je vais essayer là, de faire une histoire très simple. Puis j'ai tout le temps quand on parle d'Hitler. Je trouve qu'on parle tout le temps, là, on fait toujours des métaphores avec Hitler et c'est trop facile. Ouais. Mais regardez, on est en guerre. On est en guerre. La pandémie, c'est les nazis. C'est Adolf Hitler, OK? Bon, M. Arruda et M. Legault, c'est De Gaulle et Churchill, OK? Alors là, si vous ne respectez pas les consignes, si vous sortez dehors, vous êtes des collaborateurs. Vous collaborez avec l'ennemi, vous collaborez avec les nazis. C'est aussi simple que ça. Dans les années 40, il y a des gens qui résistaient contre les nazis et qui risquaient d'être arrêtés par la Gestapo et d'être torturés pendant des jours. Vous, là, les résistants, là, tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre derrière puis l'asseoir sur un sofa. C'est clair, là? Regardez, asseyez ça à la maison. Là. Vous prenez votre derrière, là, oups, assis sur le sofa. Vous êtes des résistants. Vous êtes des héros. C'est le fun. Ça prend pas grand-chose. Vous risquez rien.
Une résistance passive.
Une résistance très passive. Tout ce qu'on vous demande, derrière, sofa. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, s'il vous plaît, il faut le faire. Là. Et quand je vois M. Lionel Perez, qui est le chef de l'opposition à la Ville de Montréal, qui ne respecte pas les consignes, lui, dehors, il devrait démissionner aujourd'hui, il n'a plus aucune crédibilité. La prochaine fois qu'il va nous parler de l'intérêt général et tout ça, on va se mettre les doigts dans les oreilles en chantant « da, 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 da ». On ne l'écoutera pas. M. Perez n'a plus aucune crédibilité. Bye-bye.
Par ailleurs, Richard, c'est toujours délicat d'aborder ça, mais il y a une communauté en particulier où les policiers sont passés hier dans un lieu de rassemblement, là, c'est les Juifs hassidiques.
Écoute, en Israël, OK, en Israël, c'est des Juifs qui vivent en Israël. Et en Israël, il y a eu un gros texte dans le magazine Marianne où les Juifs modérés, les Juifs laïcs disent aux Juifs hassidiques, écoutez, respectez les consignes. En Israël, ils ont de la difficulté. Parce que là, les gens vont dire, tu parles de religion. Non, les Juifs hassidiques, c'est une secte. Les Juifs hassidiques sont aux Juifs ce que les Mormons sont aux catholiques. C'est ça, c'est une secte. Et on dirait qu'ils vivent en autarcie. On dirait qu'ils ne respectent pas les consignes, qu'ils n'écoutent pas les points de presse à 13 heures. Il me semble que tous les Québécois sont devant leur télé en train d'écouter les... Je sais pas, parce qu'il y a plein de cas, que ce soit à Boisbriand, M. Rosenberg, qui est aux soins intensifs, là, qui a organisé un gros mariage dans son hôtel avec plusieurs personnes, près de 200 personnes, le 16 mars, alors qu'on savait ce qui en était. Et on parle beaucoup de vivre ensemble depuis quelques années. Est-ce que ces gens-là vivent avec nous? Est-ce qu'ils vivent au Québec? Est-ce qu'ils sont là, tu sais? Et le pire là-dedans, le plus fâchant, Jean-François, c'est que lorsque ces gens-là vont tomber malades, là, soudainement, ils vont dire « payer pour nos soins ». Là, soudainement, ils vont découvrir des vertus de la solidarité. Là, ils vont dire aux Québécois « là, on est solidaires, là, vous allez payer pour mes soins ». Mais la solidarité, ça joue à deux.
Ouais.
Soyez solidaires aussi avec l'ensemble des Québécois, puis respectez les consignes, lâchez un peu la religion. Là. La science actuellement, là, dans le moment où on est, la science est plus importante que la religion. Des récalcitrants, il y en a dans toutes les communautés. C'est dans toutes les communautés, il y en a. Mais il semble avoir un problème en particulier avec les hassidiques, donc il est temps qu'ils allument, là, puis qu'ils voient la gravité de la situation.
Et pour reprendre ton analogie sur la guerre, Richard, tu parlais tout à l'heure des collaborateurs. Il y a quelqu'un qui m'écrivait hier qui comparait les gens qui ne respectaient pas la distanciation, qui ne respectaient pas les directives à des déserteurs.
Exactement, à des déserteurs, écoute. Et un peu plus tard, ici à Cube Radio, Sophie Durocher et moi, ma conjointe, on va demander au couple comment vous vivez ça, l'isolement. C'est quoi votre vie de couple pendant l'isolement? Est-ce que vous vous courez après en criant? Comment vous faites pour essayer de prendre un peu vos distances? Est-ce qu'il va y avoir des divorces à la fin de ça? On en discute.
Ouais, donc on peut nous rejoindre. On disait au début, des gens disaient Oui, les gens disaient au début qu'il va y avoir un baby boom, mais après ça, on s'est rendu compte, avec les expériences ailleurs, qu'il y a eu davantage de divorces.
Un divorce boom. Mais n'oubliez pas, en ce week-end, les fesses sur le sofa. C'est tout ce qu'on vous demande.
Les instructions sont très claires, Richard. On va les suivre. Salut.
Salut, bon week-end.
Bonne fin de semaine.
Richard Martineau.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Denise qui est avec nous, Denise Bombardier, bonjour.
Oui, bonjour.
Je suis tellement content de vous parler, Denise.
Oui, ben ça me fait plaisir, moi aussi.
Et vous parlez dans votre chronique, justement, des ultra-religieux. C'est toujours délicat, là. Je viens d'en parler. Oui. Là, il y a un problème, visiblement, oui, avec les communautés hassidiques, mais on met toujours des gants blancs.
Là, je viens de vous entendre. Et il y a une précision. Vous savez, en français, on peut utiliser le « les », L-E-S.
Il y a « des ».
Des, D-E-S. Oui. Alors, ce qu'il faut dire à propos de la communauté hassidique, ce qui est très important de savoir, c'est que les leaders, eux, de la communauté hassidique de Montréal ont pris la décision, le 18 mars, de fermer toutes les synagogues orthodoxes de la ville. Parce que c'est très compliqué.
Denise, il y a eu une intervention dans une synagogue il y a quelques heures à Montréal. Encore, la police qui a fait une intervention dans une synagogue pour disperser les gens.
Oui, mais ce n'est pas une synagogue orthodoxe. C'est ça que ça veut dire. C'est parce que même à l'intérieur des hassidiques, il y a des hassidiques qui ne respectent pas, qui ne reconnaissent pas les leaders officiels de la communauté hassidique. Ça, c'est bien important. En plus, il n'y a pas que des hassidiques. Il y a les Lubavitch aussi. Hein? Et il y a les gens de Boisbriand qui appartiennent à d'autres, qui ont d'autres rabbins de référence. Là, c'est toute l'histoire complexe de toutes ces communautés qui viennent toutes, on le sait peut-être, ou les gens ne savent pas, ce sont des juifs qui viennent d'Europe centrale essentiellement, ce sont pas des juifs ça, qui viennent des pays musulmans. Vous voyez?
Mais en Israël même, ils ont de la difficulté. Il y a plein de textes de reportage.
En Israël, c'est terrible parce qu'ils ont la balance du pouvoir souvent, et c'est à cause d'eux, d'une certaine façon, qu'on peut dire que la paix n'a jamais avancé dans le règlement de paix avec les Palestiniens.
Exactement.
C'est clair, et à cause, Richard, on en parlera une autre fois, du système de représentation proportionnel. Ils vivent la représentation proportionnelle en Israël. Quand on veut savoir ce que ça donne, ça donne des blocages. On s'en souviendra un jour, puis on remettra ça à... Bon, mais ce que je veux dire, c'est que il est évident que ceux qui se comportent comme ça n'ont donc pas respecté, parce que une synagogue orthodoxe, c'est pas une synagogue comme les autres, c'est celle qui est reliée à ces leaders de la communauté qui sont identifiés. Mais à côté de ça, vous en avez des ultras qui sont encore, donc, qui ne respectent pas, évidemment, les lois, qui ne respectent pas les règlements, et qui, surtout en cette période, parce que c'est la Pâque juive pour eux aussi, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça qu'il y a des mariages aussi, parce que dans ces communautés-là, on se marie autour de Pâques, le Pourim, là. On se marie là, et c'est pour ça qu'on a vu des délires comme le mariage qui s'est produit. Il y en a eu un il y a une semaine et demie à peu près dans une des synagogues les plus riches de Montréal à Westmount. Il y a eu un grand mariage là aussi.
Ben oui. Hein?
Et il y a eu celle dans l'hôtel du propriétaire du Crown Plaza. Et là, il y a eu on sait qu'il y a eu une éclosion et qu'il y a eu énormément de gens qui ont été contaminés. Mais la question que je pose, c'est que il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pas dans la Torah de dire que si tu respectes pas la loi. C'est dans la culture. Et le problème, c'est que il faut faire une distinction entre la religion et la culture. Or, ce sont des comportements culturels qu'ils ont. Et en Israël, c'est la même chose. Ils le font au nom de Yahvé, mais c'est pas le Yahvé des gens qui sont pratiquants,
Non, mais ils sont pas représentants des Juifs. C'est une secte. Ce sont des sectes. C'est comme les Mormons pour les catholiques.
Mais voyez, ce sont des sectes mais c'est plusieurs sectes. Et les hassidiques sont pas tous pareils. Il y a les hassidiques orthodoxes, reconnus qui sont réunis entre eux, et il y a les autres qui ne fonctionnent pas.
Denis, je vais vous raconter une anecdote. Okay? C'est une anecdote, ça vaut ce que ça vaut. Mais je demeurais à Outremont, on avait des voisins qu'on aimait beaucoup. Les voisins ont décidé de vendre la maison. Ils ont vendu la maison à des Juifs hassidiques. Et là, on attendait l'arrivée de ces gens-là, et là, ils n'arrivaient pas. On regarde, on voit la courtier d'immeubles qui avait vendu la maison aux Juifs hassidiques. On dit, quand est-ce qu'ils vont déménager? Finalement, la maison est toujours là, il n'y a personne dans la maison. Et elle a dit, et c'est pour moi qu'ils l'inventent, finalement, ils ont décidé de ne pas déménager dans la maison parce qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de Juifs sur la rue. Il y avait trop de non-Juifs, donc ils ont décidé de ne pas déménager là. Ils veulent aller dans une rue où il y a plus de Juifs. Je m'excuse, ça, c'est du racisme.
Et ce sont les plus voyants et ils posent des problèmes politiques ils posent les problèmes politiques en Israël. Ils pèsent de tout leur poids en Israël, les ultra-religieux, c'est clair. Oui. Bon, alors, mais la majorité des Juifs se soumet. Les synagogues officielles sont toutes fermées depuis le 18 mars. Et plus les synagogues libérales, parce que, vous voyez, il y a les Juifs orthodoxes, mais il y a des Juifs libéraux. Les Juifs libéraux, vous ne le savez pas, je veux dire, on travaille, ils sont partout, et qui vont à la synagogue. Tout ça est fermé. Hein? D'ailleurs, c'est la même chose pour les mosquées. Mais les mosquées, c'est parce que c'est aussi des centres culturels. Alors, ils laissent ouvert la mosquée, enfin, ce qui est à côté de la mosquée, mais c'est dans le même type d'immeuble, parce qu'ils font des activités culturelles, et puis, bon, ils aident les gens qui auraient besoin d'être aidés. Donc, ils jouent sur les... Vous savez, au fond, la question qu'on peut se poser, c'est que tous les religieux qui sont fondamentalistes nous posent des problèmes dans nos sociétés laïques.
Oui, oui. Hein? Oui. Et ces gens-là vivent comme en autarcie. Ils ne vivent pas avec nous. Ils ne vivent pas avec nous. Mais soudainement, lorsqu'ils tombent malades, soudainement, ils découvrent les vertus de la solidarité. Puis là, il faut payer pour leurs soins. Puis là, c'est des Québécois. Puis là, ils ont leur carte d'assurance santé. Puis là, soudainement, ils découvrent qu'ils vivent au Québec.
Mais Richard, on ne peut pas, on vit dans une société de liberté ici. On ne peut pas décider quelles sont les religions, ce qu'on peut accepter, ce qu'on doit faire et ce qu'on doit exiger, c'est qu'il n'y a pas une religion qui doit dicter, par exemple, quelqu'un qui veut aller, moi j'ai un ami qui est un spécialiste de l'arthrite, hein, il y a une dame couverte de la tête aux pieds. Hein? Elle voulait pas. Quand vous faites un examen avec quelqu'un qui a de l'arthrite, vous êtes obligé de l'examiner, évidemment, pas par-dessus ses vêtements. Eh bien, cette femme-là, elle, avec son mari a dit non, vous n'allez pas examiner ma femme. Eh bien, ça, on ne peut pas consentir à des accommodements raisonnables pour ça.
Pas dans la période actuelle, là, en tout cas.
Non, non, mais n'importe quelle période, on ne peut pas faire ça. Hein? Je veux dire, un malade, il y a des protocoles médicaux qui correspondent à la réalité de la maladie, hein, à la science. Hein, on sait bien que vous ne pouvez pas être examiné à 20 pieds au fond de votre gorge, c'est sûr. Hein. Bon, donc, il faut que le médecin s'approche de vous et qu'il vous touche. Alors, si on dit, moi, vous n'allez pas me toucher... Vous voyez, mais on l'a vu. Écoutez, on a eu une jeune femme qui a accouché à Québec, une témoin de Jéhovah,
ben oui,
et qui n'a pas voulu et qui est morte parce qu'il fallait qu'elle ait une transfusion de sang. C'est des choses qu'on ne devrait jamais accepter. Et dans des moments de pandémie comme ça, où tout le monde est inquiet, qu'il y ait des rassemblements de gens qui viennent comme ça devant la maison d'un des rabbins qui a décidé que, parce que pour chanter là pendant le temps, c'est toute une pratique, pour chanter à ce moment-ci, là il faut qu'il soit au moins 15 ou 20, je ne sais pas exactement le chiffre autrement, et qui ils sont tous venus devant la maison, ils se sont mis sur le trottoir, ça a débordé dans les rues. Ils ont appelé la police.
Mais Denise, la religion qui réconforte en temps de crise, pas de problème avec ça. Mais la religion qui nous menace, la religion qui nous met à risque, là, j'ai un problème.
Mais ce n'est pas la religion, c'est l'expression culturelle. C'est pas vrai que la religion juive enseigne ça, que la Torah enseigne ça. C'est pas vrai que le Coran dit au... c'est simple. Dans le Coran, le voile n'est pas dit que les femmes doivent être voilées.
Ben non.
Ben vous non, comprenez? C'est comme dans la religion catholique. Et je dis, il y a une chose qui nous apparaît évidente, là, et il fallait le dire, puisqu'on est de culture catholique. Le pape, on a vu le pape seul remonter. Il y avait une photo extraordinaire il y a 15 jours. Il est allé faire sa bénédiction Urbi et Orbi pour Pâques. Il a annulé la fête de Pâques. Toutes les églises au monde sont fermées. Et donc, en ce sens-là, l'Église catholique a été exemplaire et n'a pas imposé des délires qui viendraient d'ultra-catholiques qui diraient non, on ne peut pas, il faut faire la fête de Pâques, il faut se réunir. D'ailleurs, mais c'est ce que font les évangéliques aux États-Unis. C'est ce qu'a fait Trump il y a deux semaines quand il a dit à Pâques, faut que toutes les églises soient pleines. Il a répondu parce que c'est sa clientèle. Il a répondu aux demandes des ultra-religieux fanatiques qui croient en plus à l'apocalypse. Eux, ils disent qu'actuellement c'est l'apocalypse. Le président des États-Unis a dit ça. Là maintenant, il est obligé de revenir parce que vous voyez le nombre de gens qui meurent aux États-Unis. Alors, on ne peut pas répondre aux dictats d'illuminés religieux.
Oui, puis il y a des ultra-religieux, il y en a dans toutes les religions. Et ces gens-là.
Il y en a dans toutes les religions.
Ces gens-là nous mettent.
Ils nous mettent. Il y en a tous. Chez les chrétiens, dans des sectes chrétiennes aux États-Unis, là, il y en a aussi.
Et ils nous mettent tous à risque.
Dans l'Église catholique, si, il n'y en a pas. On peut dire que chez nous, il n'y en a pas.
Merci beaucoup, Denise, et passez une très bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci.
D'accord. OK, au revoir.
Denise Bombardier.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Politiquement incorrect.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Il y a quelque chose de bien plaisant qui est arrivé dernièrement à Christophe le bon enfant. Chose véritable. Sa femme ayant pour aimant un meunier tout aimant.
Steve Fortin qui est avec nous, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est bien beau ça, Steve. C'est qui ça?
Oui, ça c'est Bernard Simard. Puis je suis content de prendre ma modeste tribune avec toi, Richard, pour lui rendre un court hommage. On n'en a pas beaucoup parlé. Lui fait partie de la même maison de distribution que Bébert, Yves Lambert. La cruche libre. Écoute, j'en parle avec un peu d'émotion parce qu'il y a très longtemps de ça, j'ai rencontré Bernard Simard dans le cadre de mon implication au Festival Mémoire et Racines à Joliette, Saint-Charles-Borromée, Festival de musique traditionnelle. Puis écoute, tu sais, à un moment où j'étais plus jeune puis que je carburais pas mal plus au death metal qu'à la musique traditionnelle, il y a des voix comme celle-là qui viennent te chercher. Et puis, je me souviendrai tout le temps dans le parc Bosco à Saint-Charles-Borromée. À un moment donné, j'entendais quelqu'un chanter à sa guitare, puis je m'étais approché de lui. J'étais avec un de mes amis, on était resté là, puis on l'avait laissé finir et on avait commencé à longuement discuter avec lui. Puis pour les années après, j'ai beaucoup, chaque fois que je le voyais, c'était toujours un beau moment. Il a enregistré des trucs qui sont super, super intéressants. Puis, ben c'est ça, c'est une de nos voix. Il est décédé cette semaine, puis quand je l'ai appris...
À quel âge, Steve?
Je suis pas certain exactement. Jeune soixantaine, là, mais okay. D'après ce que je me souviens. Là, mais tu sais, c'est... Puis, il y a une chose là-dedans aussi qui ça me rappelait à quel point, je veux dire, en ce moment de confinement-là, je sais pas toi, là, mais moi, j'en écoute de la musique, j'écoute des films, tu sais, puis une chance qu'on est là. Puis j'ai vu des fois quelques personnes qui disaient, bon, ben, hein, voyez-vous, là, à cette heure que tout est arrêté, à quel point c'est inutile le travail des artistes, des créateurs et tout
ben,
ça.
Ben, voyons donc.
C'est une folie. C'est tellement important. Puis je me replonge dans tout ça. Ça m'a donné l'occasion de revenir à des livres que j'avais pas terminés, de terminer des trucs que j'avais commencé. Puis, tu sais, et là, ben, on s'en rend compte. Et en passant aussi, si tu le savais pas, puis pour les amateurs de bande dessinée, j'en suis un, ceux qui connaissent le grand dessinateur Juan Jiménez, là, qui était le dessinateur de la casse des Métabarons, par exemple, ben, il est décédé, 76 ans. Il est assez âgé, mais je veux dire, tu sais, c'est du coronavirus, il reste encore des années de... Oui, on a appris ça ce matin, puis ça aussi, ça m'a fait quoi?
Et ton ami Simard, est-ce qu'il est décédé de ça aussi, coronavirus?
Non, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit relié. Mais
tu as tout à fait raison que les artistes sont extrêmement importants. Moi aussi, ouais. Je pense, ma journée... Écoute, d'ailleurs, je te lisais où tu nous parlais de Final Cut, l'album de Pink Floyd, sur ta page Facebook, à quel point tu réécoutes ça ces temps-ci. Mm-hmm. Et ça nous aide à passer à travers cette crise-là. L'art, c'est important. L'art, moi, je le dis toujours, l'art, la culture, ça te permet de voir le monde en 3D. Et les gens qui n'ont pas de vie intérieure, qui ne prennent pas du temps pour s'intéresser à l'art et à la culture, vous voyez le monde en noir et blanc.
Oui, ben c'est drôle parce que même si, admettons que quelqu'un n'est pas très, très porté vers l'art, de toute façon, en ce moment, ce qu'il va faire, peut-être qu'il va se tourner vers d'autres choses, peut-être qu'il va se tourner vers ses émissions préférées, peut-être qu'il va revenir en arrière, puis d'une certaine façon, on n'est pas dans le l'art à proprement parler, mais il va peut-être retourner, par exemple, dans ses souvenirs, puis il y a là quelque chose de vraiment, je trouve, en tout cas, intéressant. On est trop contemporain de ça pour en comprendre toute la portée, mais je parlais avec un ami à moi c'est un ami qui connaissait du hockey, puis il me disait, écoute, c'est fou, lui, il a un garçon de 13 ans, puis ensemble, il écoute des vieilles parties canadiennes nordiques, ça lui permet de parler à son gars, de lui dire, t'as pas idée à quel point ça se passait et tout ça, puis ils sont assis ensemble, puis il m'écrivait, il dit, sais-tu quoi, Steve, il dit, j'en reviens pas, j'ai quasiment plus de fun à écouter les vieux matchs des Canadiens nordiques que d'écouter les matchs des Canadiens en ce moment, puis je dis, ben certain que t'as plus de fun, c'est ça, ils sont bien meilleurs. Puis, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans aussi qui va nous ressouder. Moi, en tout cas, je peux dire une chose, ce moment de pause là, ce moment de confinement là, il n'aura pas que du, tu sais, c'est sûr qu'on s'astreint à ça, mais il va y avoir du bon qui va ressortir.
Oui, je sais pas si tu as vu la vidéo, mais il y a un orchestre symphonique où chaque musicien est chez eux avec son instrument, puis là tu vois comme il y a plein de petites images dans l'écran là, le violoniste est chez eux, puis là ils jouent ensemble et c'est d'une beauté, mais ça tire les larmes en disant, tu sais, malgré cette crise là, se sont mis ensemble, puis il essaie de passer à travers par la musique.
Oui, c'est très, très bien. Et j'ai vu ça. Ça moi aussi, ça m'a beaucoup ému. Puis une autre chose qui m'a ému, puis je veux le dire, le BDiste, un de nos BDistes les plus importants au Québec, qui s'appelle Christian Quesnel, c'est un gars de Montbout, c'est un gars de Saint-André-Avelin. Écoute les conférences de presse. J'ai publié, ça a été d'un de mes textes la semaine passée. Il fait des dessins de François Legault. Il en a fait un de Dr. Arruda cette semaine. C'est beau de voir que lui, il prend sa plume, il prend tout son talent, puis il écoute ça, puis ensuite, ben il offre une représentation graphique.
Je l'ai vu, le dessin d'Horace Arruda, il est magnifique, super beau.
Oui, c'est absolument, ce gars-là, il a du talent, c'est fou. Il est connu beaucoup. Il est connu beaucoup plus à l'extérieur du Québec qu'il est au Québec. Et pourtant, ben, je me dis, c'est ça. C'est un peu ça aussi. C'est nous, ça. C'est notre façon à nous aussi de passer à travers ça. Et la musique en est certainement une des représentations.
Tout à fait. Écoute, pendant que tu es là, ça me fait sourire parce que j'ai toujours remarqué ça, moi, puis toi, t'en es l'incarnation parfaite. J'ai toujours remarqué que les gens qui trippent sur la musique trad trip aussi sur le heavy metal. Pourtant, pour moi, s'il n'y a pas deux genres musicaux là, plus opposés que ça, c'est opposé en maudit, le heavy metal puis le trad, mais souvent, quand t'aimes un, t'aimes l'autre.
Oui, je sais pas pourquoi. J'ai remarqué ça aussi. J'ai pas mal de mes amis qui font dans les deux. Pour ceux qui connaissent le groupe Voivod, le groupe culte de musique heavy metal québécois, ben justement, c'est pas l'année passée, c'est l'année d'avant. Télé-Québec était descendu à Joliette, puis avait organisé justement un beau jam entre un harmoniciste là, bien connu au Québec, et puis Dan Mongrain, guitariste de Voivod. Puis, tu sais, l'arrimage était vraiment superbe. et oui, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant entre les deux, puis j'ai souvent remarqué ça. Il faut voir aussi que dans la construction de certaines musiques traditionnelles, pour ceux qui écoutent Iron Maiden à l'époque, là, quand tu écoutes une chanson
c'est
comme
vrai.
The Rime of the Ancient Mariner, c'est exactement ça.
C'est vrai.
Le traditionnel anglais qui se retrouvait dans une chanson heavy metal, Bruce, tu sais, Dickinson a beaucoup fait là-dedans. Là.
C'est vrai, la construction des tunes se ressemble un peu à la façon dont c'est construit. Écoute, tu voulais aussi rendre hommage aux camionneurs. Bien sûr, on parle beaucoup des travailleurs et travailleuses de la santé, avec raison, mais tu veux parler des camionneurs, parce que des fois, on chiale contre les camionneurs. Écoute, l'hiver, quand tu conduis là, dans ta petite Honda, puis qu'il y a un 18 roues qui passe à côté de toi à toute vitesse, puis qui te ramasse, là, c'est vraiment pas drôle. Des fois, on dit qu'ils sont... Mais en même temps, là, on voit là, à quel point aussi ils sont importants.
Oui, écoute, permets-moi une petite digression un peu personnelle. Hier, je disais salut à mon père, puis mon père, c'est un camionneur, puis quand je l'ai vu partir, puis quand, tu sais, ça faisait une couple de jours qu'il cogitait l'idée de retourner ou pas. C'est un gars qui a plus que 65 ans, mais il a pas 70. Il est pas obligé de retourner travailler, mais de prendre. Puis pour lui, là, je veux dire, être dans son camion, c'est pas une job, c'est une passion, ça définit sa vie. Il aime ça. Puis de le garder ici, je veux dire, en cabané et tout ça, à un moment donné, il en est venu à la conclusion, il a dit, c'est-tu quoi? Il dit, moi, tant qu'à mourir ici, mourir d'ennui, il a autant retourné sur le chemin. Et puis,
c'est des cow-boys, hein? C'est vraiment des cow-boys des temps modernes, les camionneurs.
C'est hallucinant. Puis, en parlant avec lui hier, puis en le voyant partir, puis là, on a parlé des précautions, puis, on sait quand même, je me documente là, beaucoup là-dessus par rapport aux mesures de précaution que les camionneurs devraient prendre. On regarde aussi la façon dont les États-Unis, puis le Canada et le Québec s'organisent pour être capables de mieux accommoder les camionneurs sur le chemin pour leur faciliter la vie. Mais je vais dire, c'était pas que la petite affaire pour lui. C'est partir maintenant, puis il y en a une tonne, là. Je pense à lui, je pense à Luc Robillard aussi, son grand chum. Je pense à tous ces gars-là qui sont là, qui sont sur le chemin, puis qui s'en vont et qui vont nous rapporter les... Parce que là, en ce moment, on s'entend que la plupart du temps, là, presque exclusivement, on charrie des données, là, des denrées qui sont essentielles. Tu sais, c'est de la marchandise qui est essentielle, mais c'est pas facile de prendre cette décision-là. Puis je l'ai bien vu avec mon père quand il a décidé, bon, ben OK, écoute, j'y vais. Oui, il y a des risques, mais on va faire attention. Puis je lève mon chapeau à son employeur aussi, qui sensibilise les camionneurs, qui leur propose des protocoles pour être capable de bien d'être le plus sécuritaire possible aux États-Unis et qui organise aussi les routes en fonction de bon, mais regarde, on va peut-être pas aller dans tel coin du pays des États-Unis parce que c'est bien dangereux, à moins que ce soit vraiment, vraiment essentiel. Mais tu sais, il y a quand même là aussi une conscientisation qui est intéressante, puis je veux lever mon chapeau à tous ces gens-là, les hommes et les femmes qui font ce travail-là,
parce que
c'est un travail essentiel.
Écoute, tu sais, Steve, à quel point moi j'apprécie ton jugement. Je trouve que tu as un jugement sûr et je veux discuter avec toi d'une question qui m'obsède ces temps-ci. Ceux qui écoutent l'émission régulièrement savent que j'en parle souvent. OK, c'est ce dilemme-là. Est-ce que les autorités doivent tout dire? Je lis aujourd'hui dans le National Post qui disent, quand est-ce que Justin Trudeau va nous montrer les scénarios, là, les projections? Pourquoi nous les montre pas, les projections? Je discutais de ça avec Vincent Dessureau ici, puis Vincent qui me dit, écoute, on va alerter la population pour rien, on va semer la panique. Donc, écoute, est-ce que les autorités doivent rassurer les gens quitte à cacher des informations ou doivent tout dire quitte à semer la panique? Tu te situes où là-dessus, toi?
Écoute, je suis vraiment content que tu parles de ça parce que j'ai lu quelque chose ce matin en me levant, en faisant ma tournée. Qui aurait dit, il y a quelques mois de ça, que tout à coup, Doug Ford deviendrait, en Ontario, le premier ministre de l'Ontario, pourrait devenir un exemple de manière de mener une crise, puis de transparence et tout ça. Entre Doug Ford et Justin Trudeau, c'est intéressant l'analyse que je disais, on comparait les deux, puis on disait, tu sais, Justin Trudeau, là, c'est quelqu'un qui va manier, en tout cas, il fait un usage, moi je trouve là, des fois déprimant, des phrases creuses, des lignes, tu sais, des lignes de communication toutes prêtes, là, puis il y a rarement beaucoup d'informations très précises dans ce qu'il va livrer. Puis là, ce qui est en train de se passer en Ontario, c'est que les gens se sont rendus compte, puis l'équipe de Doug Ford s'est rendu compte et s'est rendu à l'idée que, écoutez, en ce moment, la meilleure chose à faire, c'est de partager, et c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Il va partager, ben, voilà, les données
complètes.
Oui, ce sera l'essentiel de sa conférence de presse publique aujourd'hui. Voici les données, voici les scénarios les plus pessimistes, voici donc toutes les données auxquelles lui a accès. Il a dit, ben j'aimerais mieux que les gens en Ontario comprennent et voient exactement ce qui s'en vient. Puis moi, je fais partie de l'école de ceux qui se disent que effectivement, il faut partager, mais si on partage ces scénarios-là, il faut aussi s'accompagner des gens, des scientifiques, des vulgarisateurs qui sont bons et qui sont capables de faire comprendre à la population. Voici, il y a aussi un travail de vulgarisation et d'explication qui est absolument essentiel. Si on ne fait que partager les scénarios les plus pessimistes et qu'on n'explique pas les probabilités, qu'on n'explique pas dans quel cas
c'est
ça pourrait se produire,
puis il faut que tu montres, il faut que tu arrives aussi, bon, compte tenu de ce qu'on vous a présenté, voici les solutions maintenant qu'on a prises. Il faut que, oui. Faut pas que ça soit rien que des données brutes en disant ça va mal, il va, parce que Doug Ford le dit, là, les nouvelles que je vais donner cet après-midi, là, c'est pas des bonnes nouvelles. Là. Il le dit,
non,
là.
Exactement.
Ça va donner un coup, là.
Et pas juste ça, c'est que, en fait, tu sais, je crois, moi, que si... Parce que le danger là-dedans, là, puis je pense que ceux qui ont lu Denis Lessard ce matin, là, ils vont bien s'en rendre compte, là. Le danger là-dedans, c'est que si on essaie de donner, de toujours se faire rassurant, bon père de famille, puis voici les... Tu sais, hier, j'écoutais François Legault, là, puis c'est vrai qu'on le sentait vraiment préoccupé. Bon, ben voici les... Tu sais, les chiffres explosent, et les... Puis là, pendant ce temps-là, il dit, oui, mais si on va regarder les statistiques d'hospitalisation, soins intensifs, puis de mort par rapport de... Par million de personnes. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est que il faut être clair, il faut le dire, puis il faut expliquer. Puis si on n'a pas le temps de le faire dans une conférence de presse, bien, on a tous les mécanismes au gouvernement du Québec et dans tous les dans tous les autres gouvernements, là, on a tous les mécanismes pour être capable de rendre disponible l'information et rendons-la disponible aussi aux journalistes. On a parmi les journalistes au Québec des gens qui sont des bons vulgarisateurs en santé et ceux-ci seront capables ensuite de tout mettre ça en contexte dans des articles, on pourra les lire. Il y a en masse de données pour qu'on puisse les partager, mais il faut le dire à la population ce qui s'en vient.
Mais tu vois,
excuse-moi, Gary-Charles, juste pour terminer là-dessus. Si on a des scénarios qui impliquent avec la plus grande des certitudes, parce que moi, je pense que c'est ça qui s'en vient, là. Si on le voit venir, là, que le confinement va être beaucoup plus long qu'on pense, puis que les probabilités sont beaucoup plus de ce côté-là, bien qu'on prépare les gens tout de suite.
Tout à fait. Tout à fait. Puis Steve, c'est ça que j'aime chez toi. T'es un gars de gauche, puis t'es capable de dire Doug Ford fait une bonne job. Tu sais, t'es capable de reconnaître ça. T'es pas prisonnier d'un dogme. Puis la même chose, des fois, quand on est à droite, on peut dire, hey, regarde, là, Québec solidaire a une bonne idée là-dessus ou quelque chose comme ça. Il faut, à un moment donné, pas se peinturer d'un coin dans un dogme. T'es un gars de gauche, tu le dis, mais t'es en train de dire, hey, un des leaders au Canada, c'est Doug Ford.
Ben en tout cas du côté de la transparence puis de la façon dont il a décidé d'agir par rapport à ça, je trouve qu'il faut saluer ce côté-là de sa réponse et il faut le dire aussi. Doug Ford a décidé de ne pas se camper du côté des idéologues. Il écoute les scientifiques et je veux dire, tu sais, c'est tout ce qui manque parce que il faut le dire. Là, il y a des gens qui critiquent le travail des journalistes, qui critiquent le travail de certaines figures politiques, mais en gros là au Canada puis au Québec, on s'en tire quand même assez bien quand on regarde ce qui se passe en bas. Ça a aucun bon sens que le médecin le plus proche du président soit obligé de se promener avec des gardes du corps parce que maintenant, ben, il ose dire la vérité, puis là, ben, on veut le flinguer. Je veux dire, on est quand même bien ici. Les journalistes font du bon travail. Il faut continuer ça. Puis le premier ministre, somme toute, aussi au Québec et en Ontario, font de bon travail. On doit quand même le dire.
Tout à fait. Ben, Steve, écoute, passe un très bon week-end. Puis salutations à ton papa aussi, à ton père qui est camionneur, comme beaucoup de gens sur les routes qui nous apportent des denrées dont on a besoin. Fais attention à toi. Ouais, Team Steve.
Salut.
Sylvain Fortin.
Pour le serpent, il y va dans un coffre.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Ah, je suis content. Quand mon ami Vincent Dessureau vient, je suis content parce que je suis un gars, moi, assez pessimiste, mais lui, il arrive, puis c'est mon pep talk. C'est mon pep talk du jour parce qu'il arrive seulement avec des bonnes nouvelles. D'ailleurs, on a un nouveau thème pour lui. Oh, parle-le donc, Achille.
OK.
Madame la marquise,
cela n'est rien. Tout va très bien.
Tout va très bien.
Oui, oui. J'essaie de fouiller, Richard, pour te trouver des bonbons à travers les nouvelles. Ce sera pas aujourd'hui. Ben, peut-être, mais c'est mince.
Alors, on commence, bien sûr, avec M. Rosenberg, là, qui est aux soins intensifs.
Oui, c'est une nouvelle qui, je vous la rappelle, parce que ça, à mon avis, c'est ce qui va faire le plus jaser, peut-être, aujourd'hui, au Québec. Michael Rosenberg, un des hommes les plus riches au Canada, milliardaire, qui est atteint de la COVID-19. C'est ce que ses poches ont indiqué à notre collègue Félix Séguin. Donc, lui se retrouve présentement aux soins intensifs à l'hôpital général juif, donc, qui reçoit aussi l'hôpital centrale pour les patients atteints de la COVID-19, sous sédation et intubés. Donc, on parle vraiment d'une situation difficile. Lui fait partie de ceux qui ont participé à ce fameux mariage tristement célèbre, le 16 mars, à l'hôtel Crown Plaza à Montréal, où on n'avait clairement pas respecté les règles de distanciation sociale. On avait des invités qui venaient de New York. Vous souvenir, parce que tu sais, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis le début du mois de mars. Le 16 mars, on était où? Donc, 4 jours après le 12, où on avait annoncé la fin des rassemblements de plus de 250 personnes. Ça, c'était le 12. Le 15, on avait dit fermeture des lieux de rassemblement, comme les bars, les cinémas, salles de spectacle, les bibliothèques. On pouvait aller dans les restaurants, mais c'était une table sur deux. Ça n'a pas duré très longtemps. François Legault avait dit on doit sortir seulement pour aller acheter du pain, aller à la pharmacie, se faire soigner, faire une marche ou aller aider des personnes
clair,
de 70 ans.
C'était clair.
Oui, c'était clair.
Il y a des récalcitrants comme ça qui disent « Vos consignes, je m'en fous. » Vos règles de sécurité, je m'en fous. La population générale, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Puis après ça, ils tombent malades. Puis là, ils disent « Ah! » Soignez-moi, j'ai besoin de vous. Là, soudainement, ils se rappellent que l'intérêt général, ils se rappellent qu'ils font partie d'une communauté. Puis là, soudainement, ils découvrent les vertus de la solidarité parce qu'ils veulent qu'on paie pour leurs soins.
Oui, faut dire que, tu sais, on parle du père, du frère, du père de la mariée. Ouais. Je pense pas que dans un mariage, l'objectif, c'est de tuer du monde de la famille. Alors, on peut reporter les cérémonies. Je pense qu'on en est là. On aurait dû faire ce choix-là. Et je pense qu'on doit le regretter amèrement chez les Rosenberg. On va surveiller son état de santé, évidemment.
Écoute, on a dépassé le nombre du million de personnes infectées dans le monde.
Oui, et ce qui inquiète aussi, c'est vraiment... ce qui grimpe en flèche, c'est le nombre de morts dans les derniers jours. Il y a 2 ou 3 jours, on était à 3000 morts par jour. On est passé à 4, à 5. On est plus autour de 6. Alors, c'est vraiment une hausse. C'est ce qui inquiétait l'OMS dans les derniers jours. C'est que là, ça tue beaucoup de gens. Hier, aux États-Unis, il faut dire que les États-Unis prennent de plus en plus leur part de ce triste chiffre. Hier, presque 30 000 cas d'ajoutés. Honnêtement, c'est une hausse qui est vertigineuse. Presque 1000 morts encore hier. Donc là, on est à 1000 décès par jour, plus de 30 000 cas. On dit que dans les hôpitaux new-yorkais, on ajoutait 1000 patients hospitalisés par jour sur un réseau qui est déjà surchargé. Hier, c'était 1150 patients hospitalisés.
Mais ça va péter aux frettes.
Ben oui, c'est ce qu'on explique depuis quelques jours. Dans peut-être les meilleures nouvelles concernant l'international, on dit qu'en Allemagne, cette distanciation sociale, les règles de confinement, ça semble faire aplatir la courbe. Eux en sont là. On souhaite que l'Espagne, soit ça fait 2 jours que ça, même si les chiffres font peur encore, que ça semble peut-être se diriger vers un plateau tout comme l'Italie. Te dire qu'à Londres, entre autres, on vient d'ouvrir, ça montre quand même les centres de conférences de Londres, ça roulait sur l'or, tout ça. Maintenant, c'est un hôpital de campagne gigantesque, fait par les militaires en dedans de 10 jours. 500 lits, ça pourrait atteindre 4000 lits. C'est 10, l'équivalent de 10 hôpitaux dans le centre des congrès de Londres pour accueillir le plus de patients possible. Alors qu'Angela Merkel, qui est en quarantaine, elle, est sortie de sa quarantaine, ce qui me fait quand même penser à Justin Trudeau, parce qu'Angela Merkel, elle a attendu 14 jours, puis là, elle va de retour
Justin,
avec son staff.
Justin, il est encore enterré?
Ben, Justin, il est à maison, okay, encore.
Il y a quelque chose que ça ne tient pas de bout.
Ma théorie, Richard,
il veut attirer la sympathie du public.
Mais je pense, est-ce que ça attire la quelconque sympathie?
Je sais pas, mais pourquoi il reste chez eux?
Est-ce que ça peut être la gang en dessous, les Christophe Freeland, Madame Tam, Dr. Tam et tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas suggéré, j'imagine Mme Tam dire, ben Justin, pour être vraiment sûr, là, pourrais-tu rester une petite semaine de plus, juste pour être vraiment sûr, donner l'exemple? Ça se peut-tu qu'en dessous, on ait le goût que Justin Trudeau reste porte-parole? Parce qu'en dessous, l'équipe, on les voit, quand on voit les points de presse, qu'on diffuse moins, évidemment, parce qu'on privilégie le premier ministre, là, mais l'équipe en dessous, au Canada, est pas, c'est pas des pieds de céleri, et eux ont l'air à faire le travail, là. Alors, est-ce qu'eux, finalement, s'organisent entre eux, puis on informe le premier ministre qui fait son point de presse?
Oh, je comprends ce que tu dis. Comprends? Attends une minute, tu commences d'allumer, là, en disant que t'es peut-être pas le meilleur porte-parole au monde. La machine continue, là. Oui. La machine, elle marche, puis tout le monde le dit. Je parle régulièrement à Emmanuel Latraverse. Emmanuel Latraverse a dit, oh, regarde, oubliez Justin Trudeau, la machine fédérale fonctionne.
Oui.
Donc, il aurait peut-être dit à Justin,
un petit 7 jours.
Tu peux rester à la maison.
Juste pour être vraiment sûr. Moi, évidemment, ma théorie basée sur rien, mais je pense pas qu'ils souhaitent qu'il n'y ait pas une urgence que Justin Trudeau revienne parmi les autres qui s'occupent de la situation.
On n'a pas tant besoin de toi que ça. Ça fonctionne. Reste à la maison.
Il prend la chaleur au point de presse.
Repose-toi un peu, Justin.
C'est ma théorie qui vaut pas grand-chose, mais du moins, on surveille.
Ça a de l'allure. Écoute, une partie importante de l'armée canadienne qui est en isolement préventif.
Oui, nouvelle quand même intéressante. On apprenait entre autres lors d'une entrevue de John Vance, donc un des grands patrons de l'armée canadienne, à Global News, comme quoi 85% des forces armées canadiennes sont en isolement, pas parce qu'on soupçonne qu'ils aient la COVID-19, mais pour qu'ils soient prêts à intervenir dans les villes canadiennes, dans les différentes provinces. Alors, on parle de 60 000 soldats canadiens, et j'en connais même qui sont effectivement à la maison jusqu'à nouvel ordre. Alors, lorsqu'on aura besoin d'eux, on sait qu'ils ne vont pas aller contaminer personne. On dit la grande majorité des troupes, soit 85%, ne sont pas sur leur lieu de travail habituel. Leur ordre est de rester à la maison et de rester en bonne santé. On garde 8000 troupes qui vont s'occuper des missions critiques, là, ce qu'on a à surveiller, le NORAD, que ce soit de respecter nos différentes conventions internationales. Mais sinon, les autres militaires sont prêts, sont à la maison et prêts à partir au besoin.
Ça veut dire qu'on envisage l'utilisation de l'armée un moment donné.
Ben, on est prêts. Puis honnêtement, ici, on est au centre-ville, Richard, s'il y a un Hummer avec des militaires au coin de la rue, je pense que la majorité des citoyens se sentirait peut-être plus rassuré qu'avoir peur. Faudra voir l'image lorsque ça va arriver, si ça arrive. Mais
c'est fou, hein? T'imagines que les deux personnes qui auraient envoyé l'armée dans les rues,
c'est les deux Trudeau.
Les deux Trudeau.
Effectivement. On n'en est pas là encore, mais ça se peut qu'évidemment, ça évolue tellement vite de jour en jour qu'on verra dans les prochains jours.
Des milliers de demandes de répit hypothécaire à la Banque nationale.
Oui, nos collègues du journal qui ont appris que la Banque nationale avait reçu 24 000 demandes, donc d'un répit hypothécaire, ce qui permet de tout simplement stopper les paiements sur quelques mois pour donner un peu d'air sans que ça affecte le crédit. Alors, c'est quand même un avantage. Les banques, ça permet d'éviter que tout le monde fasse faillite puis perdre leur maison. Ils se retrouvent à devoir liquider leur maison et ça empêche la personne de perdre son crédit. Alors, c'est une... on fait du cas par cas présentement à la Banque nationale, mais on voit quand même le nombre est élevé. Desjardins, on apprenait que c'était 10 000 demandes il y a quelques jours à peine. Donc, au total, c'est à peu près 200 000 demandes au pays de report d'hypothèque parce que les gens ne peuvent tout simplement pas payer leur hypothèque. Alors, vous pouvez faire ce genre d'appel-là. Est-ce qu'on vous répond toujours avec la même souplesse? Ça dépend de où vous êtes.
C'est du cas par cas.
C'est du cas par cas. On sait que les banques, il y a beaucoup de pression qu'ils fassent leur part. Ça commence peut-être à se faire, heureusement.
D'ailleurs, justement, la nouvelle mesure chez Mastercard et Visa.
Oui, pour le paiement sans contact, là, qui est vraiment, je pense que ça va être universel sous peu, là, de pouvoir payer, évidemment, sans avoir à manipuler les terminaux dans les magasins. Alors, la limite passe à 250 $, ce que Desjardins avait déjà fait.
Avant, c'était 100$.
C'était 100. Alors, maintenant, 250.
100$, après ça, tu devais appuyer ces boutons.
Rentrer ton NIP et tout ça. Alors, là, ce sera 250 $ pour les Mastercard et Visa. Dépendamment des institutions financières, il faudra voir. Mais en gros, vous aurez cette nouvelle limite qui vous empêchera de taponner le terminal.
C'est bon. Tu vas-tu dans les terminaux, toi, mettons? Moi, je ne sais pas, faire des dépôts, des affaires de même. Là.
Tu veux dire dans les guichets?
Ma blonde dit non. Va pas là, dans les guichets. Va pas dans les guichets. Voyons donc, c'est plein de germes.
Ben, c'est sûr que ces temps-ci, j'ai pas beaucoup besoin d'aller au guichet de nos jours. Si tu mets tes trucs en ligne, mais...
Non, mais des dépôts de chèques.
Toi, est-ce que tu valides ton livret? Est-ce que tu imprimes ton livret, là?
Non.
Non?
Mais la photographie, c'est chèque, puis tu sais, pour les déposer des chèques, moi, je fais ça par la machine.
Oui, t'es mieux de le faire avec l'application maintenant, Richard.
Mais oui, pépère, Richard, il faut qu'il apprenne, tu photographies ton chèque, puis tu fais
ça. Mais j'avoue qu'aller au guichet, tu te laves les mains avant et après, là.
Non, il ne faut pas faire ça. Le coût de la pandémie pourrait atteindre, là, je ne sais pas, il y a tellement de zéros.
Oui, écoute, 4 000 milliards, c'est le chiffre avancé par la Banque asiatique de développement, là, je termine chicane là-dessus. Entre 2 000 et 4 000 milliards. Il faut dire que le plan de sauvetage américain, en lui seul, c'est 2 000 milliards.
C'est 1 000 milliards de 1 000 sabords, ça.
C'est beaucoup de sabords, effectivement. Et ça, ça, c'est si la crise, parce qu'on, si en 2021, on est reparti, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, mais reste que pour le virus, on le sait pas. Là. Même la Banque asiatique dit, on peut pas donner de prévisions très précises. Bon, on évalue donc la croissance en Asie à 2,2%, ce qui serait le rythme le plus lent depuis 1998. Il y avait une grande crise financière en Asie. Alors, il faudra voir l'ampleur finale, mais ce qu'on évalue, c'est du moins en milliers de milliards. Alors, un poids qui sera sur nos finances publiques pendant encore un bout de temps après les vaccins.
Et ça, c'est les jeunes qui vont payer, malheureusement, parce que nous autres, on est les plus vieux, comme moi, et les boomers, on reste le party, puis envoie les programmes sociaux chromés mur à mur, puis écoute, on met ça sur la carte de crédit, eux autres, ils pourront plus. L'État, François Legault le dit, là, si on sort une pièce, c'est parce qu'on va en faire deux. On ne commencera pas à sortir une pièce là, pour faire des subventions à gauche et à droite. Là.
On va avoir un boulet au pied des jeunes, la jeune génération pour un bout de temps.
Comment tu vis ta vie de couple? C'est la question qu'on a.
C'est une très bonne question. Ben moi, je travaille.
OK, fait que tout va bien.
Alors,
mais écoute,
on se voit pas toujours.
Mais c'est la question qu'on pose avec Sophie après la pause. Comment vous vivez votre vie de couple pendant le confinement? On sait qu'il y a eu un baby boom pendant la crise du verglas. Est-ce qu'il va y avoir un divorce boom?
Ben parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même deux avenues. Soit c'est le divorce, ou soit tu en ressors plus fort et t'es content d'avoir traversé une épreuve ensemble.
Ah, oh, mais ça, c'est Nietzsche, le philosophe allemand, qui disait « Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. »
Voilà.
Exactement. Alors, on veut entendre vos anecdotes. Racontez-nous comment vous vivez votre vie de couple pendant le confinement, le 1-877-827-2346. 1-877-827-2346. Studio en commercial cube.radio. Studio en commercial cube.radio. On veut discuter avec vous. Merci pour ton pep talk. Plein de bonnes nouvelles.
Ça viendra, les bonnes nouvelles, Richard. Lâche pas.
Tout va très bien, Madame la Marquise. Merci.
Brûle à madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement incorrect.
Cube Radio. Thérapie de couple.
Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
Thérapie de couple.
Comment vous vivez votre vie de couple pendant le confinement, le 1-877-827-2346, 1-877-827-2346, studio à commercial cube.radio. Sophie, d'ailleurs, faut le dire, hein, une pensée toute particulière pour les gens, par exemple, qui ont des enfants avec des besoins spéciaux. Tu imagines les couples qui sont à la maison avec des enfants autistes, par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller dehors. Mm. C'est extrêmement difficile pour eux. C'est pas tout le monde qui a des grandes maisons aussi où tu peux avoir chacun ta petite chambre et chacun... Tu sais, il y a des gens... On n'est pas tous égaux dans le confinement.
Aussi. Ben, tous les cas de violence conjugale, tous les cas de famille dysfonctionnelle, quand dans la vie ordinaire, dans la vie normale, dans la vie d'avant, ta vie familiale était difficile, les problèmes sont juste amplifiés. Et si ta vie familiale allait bien avant, ben là, en période de confinement, les problèmes apparaissent. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri, mais c'est sûr qu'il y a des gens pour qui la situation, de toute façon, au quotidien, est déjà difficile.
Écoute, les proches aidants, là, José Legault qui a écrit justement laquelle qui est proche aidante pour sa sœur, qui a des besoins particuliers, tout ça, c'est certain qu'on n'est pas tous égales là-dedans. Là, il y a des gens qui nous ont écrit. Il y a un gars qui a fait un gag, et il dit, j'ai enfermé ma blonde dans le cabanon, je la nourris à tous les 3 jours, tout va très bien.
Bon, on est censé trouver ça drôle. Joke de mon oncle, tout de suite en commençant.
Si ça avait été une fille, qui avait écrit ça, j'ai enfermé mon chum dans le cabanon.
C'est pour ça que ça s'appelle, thérapie de couple. Écoute, je veux juste te donner un exemple. En Malaisie, le gouvernement a fait imprimer des posters qui sont mis partout dans les villes pour dire aux femmes d'arrêter d'emmerder leur mari pendant le confinement.
Non.
Écoute, oui, je te jure, c'est Bon, il faut en rire parce que c'est pas, tu sais, c'est comme, tu sais, t'imagines François Legault à son point de presse à une heure qui dirait, bon, ben là, les germaines, là, arrêtez de gérer puis arrêtez de mener, laissez vos maris tranquilles. Écoute, c'est absolument hallucinant. On leur a dit qu'il fallait aussi que les femmes s'habillent bien puis portent du maquillage parce que, tu sais, à un moment donné, c'est long le confinement, fait qu'il faut quand même rester agréable pour votre mari. En tout cas.
Attends, ça, c'est aux Philippines?
En Malaisie.
En Malaisie. Okay.
En Malaisie.
C'est aux Philippines qui disent qu'il faut tirer sur les récalcitrants. Les
ouais, gens mais ça,
qui n'écoutent pas les non, non, mais c'est des...
Oui, c'est Duterte. Ben oui, aux Philippines. C'est
une région
délirant.
Du monde assez particulière quand même. Denis Etu qui nous a écrit, si ça dure jusqu'en juin, je crois que plusieurs couples vont y passer. Une situation de crise extrême fait ressortir le meilleur et le pire de chacun. Normal que notre vision de l'autre change lorsqu'on découvre les côtés cachés. Négatif. À l'inverse, d'autres couples en ressortiront plus fort parce qu'ils s'apercevront des côtés très positifs chez l'autre que le train-train quotidien ne permet pas toujours de voir et d'apprécier à sa pleine valeur. C'est tout à fait
c'est
juste.
C'est très intéressant. Denis,
très bon.
Et pour rebondir sur ce que cet auditeur t'a écrit, il y a CNN hier qui a publié un texte pour dire qu'il y a différentes personnes qui ont fait des recherches sur ça va être quoi l'impact du confinement. Alors, évidemment, il y a une partie de ça qui va faire en sorte que la charge mentale, je m'excuse, mais dans ce cas-là, oui, il faut en parler, que la charge mentale des femmes qui travaillent va être juste plus grande parce que, tu sais, si tu as conservé ton emploi puis qu'en plus, tes enfants sont à la maison alors que normalement, ils vont à l'école, ben, les femmes vont se retrouver avec plus de tâches ménagères à la maison.
Donc, tu es en train de reconnaître que c'est vrai que souvent...
Non, mais dans certains cas...
Que
mais
souvent,
attends, la
c'est
deuxième...
les femmes qui s'occupent des enfants. T'es en train de le
attends,
reconnaître.
Oui, attends. Laisse, parce que tu me... Et comme d'habitude, tu me laisses pas terminer, puis tu te prononces avant que j'aie eu le temps de tout dire. Ça s'appelle thérapie de couple, il faut qu'on en parle. La deuxième partie de l'article de CNN dit, à contrario, il y a aussi des situations extrêmement intéressantes où il y a plein de cas où il y a des hommes qui vont se retrouver et qui se retrouvent déjà à la maison à s'occuper à temps en plein des enfants, soit parce qu'ils ont perdu leur job, soit parce que, dans certains cas, tu sais, dans le domaine hospitalier, ben on le sait, aux États-Unis, c'est comme au Canada, il y a plus de femmes que d'hommes.
Oui.
Tu sais, il y a plus de femmes médecins que d'hommes. Et donc, ben, la femme va travailler parce qu'elle offre un service essentiel et le mari est à la maison et s'occupe des enfants. Et dans le texte de CNN, il y a des études qui disent que ça peut avoir un effet extrêmement positif parce que plein de gars qui sont pas habitués normalement à prendre soin des enfants ou même à faire des tâches ménagères comme récurer le bol de toilette vont être obligés par la force des choses de faire des tâches qu'ils faisaient peut-être pas avant. Donc, ça va avoir du bien.
Parce que le gars, mettons, avait un emploi dans un secteur qui est pas essentiel. Lui, son emploi est sur pause. Lui, il est à la maison. Et les femmes, c'est vrai que souvent les femmes en éducation, en santé, etc., sont là souvent. Donc, elles, en santé, les femmes doivent aller travailler.
Dans le domaine de l'épicerie, c'est...
La grosserie, comme dirait Patrice Lemieux.
Ah, oh, c'est tellement drôle. Tu l'as fait jouer, plutôt?
Non.
La grosserie. Ah, il faudrait le faire jouer. On va demander à Alexandre de le retrouver. Même François Legault l'a retweeté. Le fameux hockeyeur, là, Patrice Lemieux, il a fait une nouvelle capsule. Écoute, c'est tellement drôle.
Alors, Isabelle, qui nous a écrit, elle est chanceuse parce qu'elle vit à la campagne. Chez nous, ça se passe très bien. Mon mari s'occupe de ses poules et de ses semis de tomates. OK, donc, ça, c'est quand il y a la campagne, quand même. Ses poules et ses semis de tomates, ça le décompresse des soucis du quotidien. Moi, je marche seul au moins une heure par jour dans le bois pour me retrouver. Voilà.
Bon, mais ça, je trouve ça intéressant, Richard, parce que ce qui est le plus dur, je trouve, du confinement, c'est que t'as pas de temps pour toi. Tu sais, le fameux « me time » là qui est si important, ben tu sais, normalement, dans une journée là idéale, tu sais, bon, l'un va travailler, l'autre va travailler, les enfants sont à l'école, puis tu peux, si tu te débrouilles bien, trouver ne serait-ce qu'un 5 ou un 10 ou un 15 minutes pour toi, juste pour respirer. Mais quand tout le monde est pogné dans la même maison, dans le même appartement, dans le même 2,5, là, et du temps pour toi, oublie ça. Puis c'est là
peut-être que la marche,
la soupape est pâte.
Peut-être parce qu'on a le droit, d'aller marcher encore si on respecte la distance. Peut-être
s'il n'y a pas un jogger qui vient, te souffler dans le dos là.
Mais t'es pas obligé d'aller marcher en famille aussi. Tu peux peut-être prendre ta petite marche toute seule.
Es-tu en train de m'envoyer un message?
Non, ben là, nous autres, on fait notre marche en famille, les trois. Puis après ça, on rentre, puis on est en famille. Peut-être qu'on peut, tu sais, moi, une journée, je vais faire la marche avec Fiston.
Moi, c'est une bonne idée, ça.
Toi, tout seul. Puis après ça, le lendemain, tu vas faire la marche avec Fiston, moi, tout seul. Moi, je trouve ça plate de marcher tout seul. Moi, te dire franchement.
Ouais. Il y a bien des affaires qui sont plates de faire tout seul.
Écoute, beaucoup de gens qui nous ont écrit, Sophie, en disant l'argent aussi, c'est très important. C'est certain que si tu n'as pas de souci d'argent, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont corrects, qui peuvent passer à travers. C'est certain que tu n'as pas le stress. Tu as moins le stress.
Toi, tu as un couple, un collègue, évidemment, qu'on nommera pas. Là. Lui a perdu sa job, elle a perdu sa job, puis les deux sont assis pour calculer combien d'argent ils avaient. Là. Quand les deux perdent leur job dans le couple, c'est extrêmement difficile. Écoute, il y a quelqu'un qui nous a écrit, Mathieu, je donnerai pas son nom de famille, qui nous a écrit en disant, écoute, moi j'ai 34 ans, ma blonde a 36 ans, on est tous les deux de Québec, on s'est rencontrés seulement en octobre dernier, donc on n'habite pas ensemble. Ça, c'est drôlement intéressant. Ils n'habitent pas ensemble et donc, habituellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rejoignent la fin de semaine. Tu sais, la semaine, ils travaillent chacun leur truc, puis la fin de semaine, ils se retrouvent dans l'appartement d'un des deux. Mais là, avec les nouvelles consignes, tu sais, il y a une contravention. Tu as une contravention de 1000 $ pour chaque individu si tu fais un rassemblement. Plus de deux personnes, c'est un rassemblement. Fait que lui, il savait pas trop c'était quoi la règle. Donc, il a appelé la police de Québec mercredi pour avoir les détails. Et le policier très courtois m'a confirmé que nous étions les deux en infraction, que pour l'instant, il faisait preuve d'une certaine souplesse si les gens collaboraient. Mais après ça, il y a le premier ministre jeudi.
Ils sont en infraction.
Ben, c'est en infraction. T'as pas d'affaires à te déplacer. Tu restes chez toi à moins que ce soit essentiel, mais aller faire des witchy Wuchi avec ta blonde, c'est pas essentiel. Alors donc, la police lui avait dit, oui, vous êtes en infraction, mais pour l'instant, on ferme les yeux. Sauf que jeudi, hier, qu'est-ce qu'a fait François Legault? Il a dit, on a demandé aux policiers de ne plus rien tolérer. Et le gars conclut, et je trouve ça d'une tristesse inouïe. Il dit, suite à cette annonce, j'ai écrit à ma copine, je lui ai dit, écoute, on n'a pas les moyens de payer pour 1000 $ de contravention. Même si on fait des précautions puis tout ça, on peut même plus avoir un peu de tendresse avec la personne qu'on aime. Ils se sont dit, ben écoute, on se dit au revoir, qu'on s'aime beaucoup, puis on se reverra physiquement quand tout ça sera terminé. Je trouve ça d'une très grande tristesse. Fait que Mathieu, bon courage, on pense à vous et à votre blonde, et ben écoutez, ça va bien aller.
Il y a des gens qui nous écrivent beaucoup. Vous pouvez nous téléphoner aussi le 1-877-827-2346. On s'en va à la pause.
Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
Vous écoutez
Politiquement incorrect.
Thérapie de couple.
Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
Thérapie de couple.
On a un petit problème technique que nos lignes ont planté, donc on va vous donner d'autres numéros de téléphone parce que les numéros qu'on vous avait donnés, les lignes ont planté, souci technique.
Faut en rire parce que tu fais une ligne ouverte puis les lignes plantent. Ouais, c'est des choses qui arrivent.
Ça s'appelle une ligne fermée.
Ça s'appelle faire de la radio en direct. Donc le numéro pour nous joindre, 514-657-5771. Je vais le dire lentement parce que toi, quand tu les donnes, les numéros, tu vas trop vite. 514-657-5771 ou alors 514-657-5772.
Normand nous écrit en disant le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce que si tu apprends que tu peux pas recevoir l'aide du gouvernement, puis tu as le propriétaire qui demande son loyer à tout prix, qui veut être payé, qui est pas ouvert, qui t'accorde pas un répit, c'est certain que là, le stress pogne. Puis écoute, ajoute à ça l'alcool.
Oui, mais ben c'est ça. Hein? C'est... En fait, tu vois, on en a parlé beaucoup du fait de est-ce que la SAQ devrait rester ouverte ou pas rester ouverte. Puis il y a plein de spécialistes qui disaient, écoute, si on ferme la SAQ, ça va créer des problèmes sociaux pires. Puis tous les gens qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool ben, vont se retrouver à l'urgence parce que le sevrage, c'est quelque chose qui se fait de façon progressive. Mais c'est sûr que s'il y a de l'abus d'alcool, ben à l'intérieur d'un couple ou à l'intérieur d'une famille, c'est pas génial non plus.
François qui nous écrit, il est plus facile, je sais pas ce qu'il veut dire exactement, essaie de donne-moi ton interprétation. Il est plus facile de survivre si on a la paix du slip, comme disait Fabrice Luchini.
La paix du slip,
paix
j'imagine
du slip,
que
c'est quoi?
Ben je sais pas là, ça, c'est si ça va bien dans tes bobettes.
OK, si ça te gratouille pas trop.
Si ça te gratouille, ça te démange pas trop
ça
dans l'entrejambe. D'ailleurs, parlant de ça, est-ce qu'on peut le raconter? Je pense qu'on peut. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, vendredi dernier, on avait dit que Sylvie Lavallée, qui est donc sexologue, avait recommandé, quand je l'avais eue en entrevue, elle avait dit, écoutez, c'est important d'avoir des relations sexuelles. Si, en tout cas, si la libido est là, allez-y gaiement. Et le fait qu'il y a des enfants à la maison devrait pas vous en empêcher. Alors, vous dites aux enfants que la chambre de papa, maman, ou papa, papa, ou maman, maman, c'est sacré. Alors, tu fermes la porte, tu mets une chaise pour barrer la porte, puis tu fais des couchis, et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Je me souviens plus quand.
On a dit à fiston, là, on va aller faire une sieste. Là.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a 12 ans, je pense qu'il commence à catcher un peu.
De toute façon, il était sur sa PS4, il s'en foutait un peu. Bonjour, Louis.
Bonjour.
Bonjour. Alors, comment vous vivez votre vie de couple, vous, pendant le confinement?
Moi, ma vie de couple, écoute bien, ça fait 33 ans que je vis avec la même femme. Puis sur ces 33 ans-là, on dirait peut-être 95% du temps 24 heures sur 24. Puis oui. Au début, on a fait un deal entre nous deux.
Ah, OK.
On a dit, moi, l'homme, je vais prendre les grandes décisions, puis toi, tu vas prendre les petites décisions. Puis depuis 33 ans, on n'a pas pris encore de grandes décisions.
C'est quoi une petite décision?
C'est toutes les décisions. Autrement dit... ça veut tout dire.
Je vous adore, Louis. C'est bon. Elle est excellente. Fait que ça fait 33 ans que ça dure, fait que ça va bien.
Oh, ça va très bien. Nous autres, on vit le confinement exactement comme on vivait avant. On est ensemble tout le temps. On est de deux âmes sœurs.
Ah, ben, ça c'est beau, c'est vraiment beau.
Il faut être oui. Meilleur ami de l'autre, hein, pour passer à travers ça, c'est sûr et certain.
C'est ça, on peut se discuter de n'importe quoi, mais jamais de retenir.
Super, merci Louis, merci beaucoup.
Attends, juste une dernière question, vous dites on peut discuter de n'importe quoi, donc vous faites pas partie de ces couples qu'on voit des fois au restaurant puis qui ont rien à se dire, puis qui parlent, qui mangent en silence au restaurant. Vous avez toujours des sujets de conversation.
Oui, on a tout le temps des sujets de conversation, mais moi, je vais parler pendant 5% du temps, puis elle va parler pendant 95% du temps.
Je vous adore, Louis.
On parle tout le temps.
Louis, merci. Comment s'appelle votre épouse qu'on puisse la saluer sur les ondes de Cube?
Micheline.
Ben Louis et Micheline, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, c'est trop mignon.
Un vrai Québécois, ça, en disant leur
mais tu sais à quoi ça me fait penser? Micheline, ça me fait penser
Micheline,
à tes parents.
Tu prendras toutes les petites décisions, mais on va prendre les grandes décisions. Puis c'est quoi les petites décisions? C'est toutes les décisions.
On va répéter les numéros pour nous joindre parce que, comme vous le savez, les lignes qu'on vous avait données avant sont pas en état de fonctionner. Donc, alors, pour nous appeler, c'est le 514-657-5771 ou alors le 514-657-5772. Tu sais, Richard, tu disais tout à l'heure, il y avait un des auditeurs qui avait écrit, qui avait appelé pour dire que des fois, c'est l'occasion aussi de découvrir des affaires chez l'autre. C'est le fait d'être coincé, c'est un huis clos, là. Alors, les gens font transparaître le meilleur et le pire. Et moi, je suis sûre qu'il y a des couples qui vont découvrir, par exemple, que dans une situation de stress, le gars ou la fille...
réagit mal ou réagit bien.
Réagit mal ou réagit bien. Puis je pense que ça peut aussi tu sais, il y a des journées où tu vas réagir mal, puis des journées où tu vas réagir bien, puis c'est correct aussi, ces espèces de montagnes russes-là. Mais tu sais, l'autre jour, à un moment donné, on était dans la salle à manger, puis je sais pas, c'est comme une accumulation de mauvaises nouvelles partout dans le monde, puis on a une guitare dans la salle à manger, puis elle sert jamais à rien, sauf la fois où Marc Derry est venu pour un devine qui vient souper, puis il s'est mis à la guitare. Et là, t'as pris la guitare, puis t'as commencé à jouer de la guitare, puis t'as comme improvisé une chanson. Tu faisais rimer coronavirus avec un autre mot qui finit en us.
Écoute,
et j'ai découvert que tu savais jouer de la guitare. Fait que,
Marie-Claire, comme on peut. Marie-Claire qui nous écrit, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens comme Marie-Claire qui nous ont écrit. Elle dit « Je suis contente d'être célibataire. Aucun compromis.
Ah, oui.
Aucune dispute. Pas de bouderie. Pas de ronflement. Pas de tas de vaisselle. » OK, j'arrête là. Le mail a dit qu'elle est contente d'être célibataire. Il y en a beaucoup des célibataires qui nous ont dit actuellement, elles sont contentes d'être tout seules.
Oui, mais en même temps, je peux très bien comprendre parce qu'en effet, si t'es tout seul, il n'y a personne pour te taper ses nerfs. Il n'y a personne pour te dire « ramasse-toi ». Il n'y a personne pour te dire « hein, tu ne mets pas la vaisselle. Comment ça se fait que tu mets les couteaux par en haut alors que moi, je les mets par en bas ?» Je comprends fort bien et en effet, on salue tous les célibataires. En même temps, je pense que quand il y a des épreuves, puis on ne se le cachera pas, ce qu'on vit en ce moment, pour tout le monde, c'est une épreuve. Moi, je préfère, dans une épreuve, avoir quelqu'un avec qui la traverser que être tout seul. C'est comme ça. Oui. Chacun son, ses préférences, là. Mais je vais dire, il y a des fois, là, il y a des bourrofs, là. Je suis contente, en s'il vous plaît, de t'avoir avec moi, même si des fois, je te trouve grognon à l'os. Mais j'aime mieux traverser cette épreuve-là avec
moi,
toi
je t'en montre
que tout seul.
Hein, quand même, à vous, là. Je suis pas super stable.
Non. Tu veux qu'on en parle? C'est une thérapie de couple.
Je suis pas super stable. Je suis comme des fois, là, ça va bien, hey, c'est le fun. Puis des fois, là, je suis complètement down, totalement montagne russe. Et l'affaire pour nous autres qui est difficile, mais j'imagine qu'il y a plusieurs parents comme ça, c'est que, OK, les gens disent, là, parler d'autre chose puis penser à autre chose. Vous êtes capable, vous?
Moi, je suis pas
capable. Moi, c'est là tout le temps. C'est toujours là. Je pense toujours à ça. Peut-être parce que je suis journaliste puis je lis là-dessus puis tout ça. Mais à un moment donné, notre fils nous a dit, les larmes aux yeux, arrêtez de parler tout le temps de ça, papa et maman. Je suis tanné. Puis on s'est rendu compte qu'on angoissait totalement notre enfant.
Oui, mais en même temps, excuse-moi, c'est lui. On est en train de regarder un film, toi et moi, hier. Et fiston arrive dans ton bureau où on regardait le film en disant « Oh, maman, papa, maman, la courbe est en train de baisser en Italie. » Nous, on pensait qu'il était en train de, je sais pas, de regarder des comiques ou de...
La pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Non, mais il voit qu'on parle tout le temps de ça. Fait que pour qu'on s'intéresse à lui, il dit « Hey, je vais lire là-dessus, puis je vais leur parler là-dessus, puis ils vont s'intéresser à moi. »
Ouais.
Non, je sais pas.
Écoute, sans rentrer dans les détails, il y a aussi des gens qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qu'on connaît, ils sont en plein divorce. Puis là, tu te dis, ben là, tu sais, ou en séparation. Puis là, tu te dis, ben là, je sais pas, là, tu sais, il me semble, mettons qu'il reste 3-4 mois à cette crise-là, je sais pas, vous pouvez pas.
En séparation.
Vous entendre, tu sais, attendez, je sais pas, le mois de juin, le mois de juillet, tu sais, est-ce que c'est vraiment le moment. Moment pour ça, là, je sais pas, c'est...
Non, c'est pas évident, on a dit...
C'est pas évident.
Joe? Hey, OK.
Hey, Joe!
Jonathan qui est là. Jonathan?
Salut.
Est-ce qu'il est là? Toi, tu vis ça comment? Mais ta blonde, elle travaille tout le temps, fait que c'est très facile pour toi. Elle est tout le temps un job.
On vit ça très, très bien, parce que soit que ma blonde n'est pas là ou quand elle est ici, elle est en réunion depuis 3 semaines, là, parce qu'elle a des fonctions administratives en plus. Donc, c'est ça. Ça se vit très... Mais tu sais, en même temps, je pensais à ça, je vous écoutais, puis je me disais aussi, ça dépend du profil social d'un couple donné, tu sais, d'une famille donnée. Exemple, nous autres, on a beaucoup d'occupations professionnelles, mais sinon, là, les soirs, la fin de semaine, m'a dit, pas mal tout le temps chez nous, là, tu sais, pas mal tout le temps en couple, puis les sorties, on a mis ça sur la glace pendant quelques années, parce que le temps qu'on a, on veut le consacrer aux enfants. Donc, tu sais, on n'est pas tout le temps parti à gauche et à droite. Fait que, tu sais, moi, je ressens pas le besoin, par exemple, tant que ça, là, le samedi soir, de faire un FaceTime de groupe, là, tu sais. D'être assis dans le salon avec ma blonde avec un verre de vin, ça va faire la job comme ça le faisait aussi il y a 3 semaines, là, tu sais. Mais c'est ça, chaque réalité aussi est différente, puis on doit s'adapter. Faut s'aérer l'esprit aussi. Tu sais, se donner le droit de prendre des temps d'arrêt, d'aller marcher, c'est tout ça qu'il faut revoir dans nos façons de faire.
Mais t'as raison quand tu dis que ça dépend. C'est que ça dépend dans quelle mesure le coronavirus vient bouleverser tes habitudes. Si t'as l'habitude de sortir tous les soirs, d'être constamment en contact avec des autres, que t'es tout le temps en train de, tu comprends, et que là tu te retrouves confiné à la maison, c'est pas la même chose que si de toute façon t'es confiné à la maison. On a un ami qu'on nommera pas, qui est un grand intellectuel qui est tout le temps dans ses livres. Lui il dit. un autre famille composée et qui est publié en France. Je vais juste vous donner quelques indices comme ça. Qui lui dit, ben écoute, moi de toute façon, le monde entier
des fois qu'il prend un bon boc de bière.
Oui, mais qui parfois prend des chemins de côté pour arriver là où il veut dire. Et donc cet ami là qu'on ne nommera pas absolument.
Non, on
garde sa vie privée. Bref, il nous disait, écoute, moi rester à la maison puis lire des livres, c'est mon quotidien de toute façon. Et je veux dire, c'est ça, là, ça dépend. Si, moi, je pense que ce confinement-là, de façon plus générale, au-delà, évidemment, de la crise sanitaire et de la crise économique, si tu as développé avant ça une vie intérieure, une vie culturelle, une vie des intérêts, c'est plus facile. Je mesure mes mots, puis je fais attention, puis je tourne ma langue cette fois dans ma bouche. Là, je dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile. Si la seule chose qui t'intéresse dans la vie, c'est aller prendre une bière, puis aller faire du gabasinage, puis faire des selfies, puis tu te retrouves pogné chez vous, tu vas trouver le temps long.
Non, c'est ça, c'est ça. Tu sais, moi, dans mon entourage, j'ai les deux extrêmes. Là, je prends ma sœur et son chum, par exemple, sont des gens qui ont une vie sociale. Ben un peu comme vous autres, là. Tous les soirs, ils ont quelque chose, ils sont tout le temps en train d'aller souper à quelque part, et là, ils se ramassent à être ensemble à longueur de journée, les deux travaillent dans la maison, peuvent pas aller souper chez des amis, ils ont pas des 5 à 7 dans des implications, des galotties, des fondations, etc. Fait que tu sais, pour eux, de faire des soupers FaceTime, avec, c'est important, ils le font, tu sais. Mais à l'autre bout, j'ai le frère de ma blonde et sa blonde, qui eux, honnêtement, là, je les insulte pas en disant ça, ils se vantent de leur capacité à être sauvage dans la vie, tu sais.
C'est, ouais, c'est
super sympathique, mais incroyablement casanier. Ils ont deux enfants, puis j'étais mort de rire quand j'ai parlé à mon beau-frère un moment donné, il y a deux semaines, puis tu sais, on était au début du confinement, puis moi, j'ai dit, écoute, comment ça se passe, tu sais, vous autres, là, tu sais, un peu avec une attention particulière, là, juste, vous autres, c'est-tu correct, tu sais? Il me dit, tu sais, Joe, il dit, on s'entend que c'est pas pour nous autres que ça représente la plus grande adaptation, là. on était déjà pas mal tout le temps chez nous avec les enfants, dans le confort de notre salon. Donc, tu sais, ça, donc, c'est chacun a sa réalité. Je reviens sur un petit que vous avez dit tantôt sur les enfants.
Oui.
Tu sais, on peut pas toujours. Moi, j'essaie, là, quand il y a des nouvelles en temps normal, tu sais, jadis, il y a 3 semaines, s'il y a des nouvelles sur des meurtres puis tout ça, je fais pas exprès pour exposer, là, tu sais, mon fils de 9 ans à ça. Bon, ma petite de 5 ans, elle comprend moins, mais là, c'est la réalité, là. Tu sais, tu peux pas l'évacuer, là. Les enfants, ils voient ça.
C'est sûr.
Et ça fait partie de leur quotidien. Écoute, je vous raconte l'anecdote. Ma blonde finissait une garde de 24 heures, tantôt, et quand elle est arrivée à 8 heures, la première chose que mon garçon Raphaël lui a demandé, c'est, pis maman, là, est-ce que vous les avez reçus, les masques, là? Parce que là, j'ai vu à la TVA que les masques, là, ils sont pas encore arrivés. Ma blonde a dit non, on en a pas reçu d'autres, mais t'sais, on va être correct pour l'instant. Puis là, il fait, là, petite main ça sur les hanches, puis il dit, Colin, c'est vraiment long, hein, le motus de coronavirus. T'sais, tu dis, c'est rendu, t'sais, les enfants aussi, ça fait partie de leur réalité. On n'a pas le choix, on peut pas l'évacuer non plus, là.
C'est vraiment cool. Écoute, en parlant de couple, Bernard, il y a beaucoup de gens aussi qui nous écrivent, c'est des nouveaux couples, Jonathan. Ils restent pas ensemble, donc là, ils peuvent plus se voir, ils peuvent pas se voir. Et Bernard, il dit, pensez aux couples qui peuvent pas se voir à cause de la situation actuelle. Il y a une fille qui nous a écrit, elle dit, moi, je demeure à Montréal, mon chum demeure à Lanaudière.
Ben oui,
mais
ben c'est ça.
On peut pas se voir.
Ben, l'exemple de Mathieu qui nous a écrit tout à l'heure, puis qui disait, écoute, ils sont dans la même ville. Je sais pas si t'as entendu Jonathan tout à l'heure, l'auditeur qui nous écrivait. OK, ben c'est ça. C'est un auditeur qui dit, regarde, ma blonde et moi, on habite dans la même ville. On sort ensemble seulement depuis le mois d'octobre. Donc, on a chacun notre appartement, puis notre habitude qu'on a, c'est la fin de semaine, moi, je m'en vais à son appartement à elle. Mais il dit là, il dit, t'es passible d'une contravention de 1 000 $ si tu te déplaces, tu sais, si t'as pas, c'est pas un service essentiel, on est d'accord avec ça. Fait qu'ils ont décidé pour l'instant d'arrêter de se voir jusqu'à la fin du confinement.
Oh.
Je trouve ça d'une tristesse inouïe.
Je trouve ça d'une tristesse, ouais. Puis moi, il y a tout l'aspect aussi des gens. Puis c'est plate parce qu'on va finir le show là-dessus, mais je suis en train d'écrire ma chronique tantôt sur la mort dans la solitude. Et c'est quelque chose ça, qui me...
Ça m'obsède,
ça vient me chercher. J'ai parlé avec le docteur Julien Cavana qui est à New York, là, un médecin québécois qui travaille à New York. Et il me disait que c'était, en entrevue, il me disait que c'était un des éléments qui lui faisait le plus mal au point de vue humain de voir le nombre de personnes qui meurent en étant isolés, en voyant pas leur famille, leurs proches, et les seuls contacts humains qu'ils ont, c'est avec des gens déguisés, là, tu sais, de la tête aux pieds, avec des masques puis des visières, puis tu sais, tu peux pas avoir plus froid que ça. Donc, t'as les gens qui sont atteints de la COVID, qui meurent seuls, et t'as tous les autres qui sont malades, qui ça n'a rien à voir avec la COVID, mais qui sont tout seuls, puis que leurs proches sont pas avec eux, là.
Ouais. Tu sais, j'ai fait une entrevue.
Si je dis ça, puis je pensais à ça, je vais scooper la conclusion de ma chronique de demain, là, mais je me disais, je veux pas être trop pessimiste en écrivant ça, tu sais, dans une chronique dans le samedi, mais la conclusion de ce message-là, de cette réflexion-là, c'est avant de sortir là, ou de faire un rassemblement au Parc La Fontaine ou whatever, là, essayez donc de garder ça en tête.
Ouais.
Qu'il y a des gens qui meurent seuls à cause de la situation actuelle et qu'on doit tous travailler pour essayer d'améliorer la situation, qu'on passe au travers le plus rapidement possible. C'est ça la conclusion.
Avant d'organiser un gros mariage de 200 personnes dans ton hôtel.
Et je vais terminer sur une note, tiens, plus rigolote. Daniel qui nous écrit « Moi, je suis célibataire et je me tape sur les nerfs moi-même. Lorsque je me rends compte devant le miroir, je m'engueule. Alors, imaginez en couple. » Lui dit « Heureusement, je suis pas en couple. Je suis tout seul puis je me tape sur les nerfs. »
Mais Richard, ce fil auditeur tantôt là, qui disait que...
C'était une grande
décision, puis que sa femme prenait les petites décisions, j'ai éclaté de rire. C'était drôle. Ça, c'est le genre de truc qui fait du bien. Puis ça, en fin de semaine, là, écoutons-nous des choses drôles aussi. Là. Il faut décrocher un petit peu, là, se changer les idées, là, que ce soit des séries, des spectacles d'humour. Il faut qu'on prenne le temps de décrocher. En tout cas, moi, c'est mon objectif en fin de semaine.
Écoute, bon, on t'écoute. J'imagine tu vas revenir bien sûr là-dessus.
Oui, d'ailleurs, avec le docteur Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes, ça va être bien, bien intéressant. Et tu sais, tout le monde fait attention de pas chicaner à outrance, là, puis de pas critiquer le gouvernement en collaboration, mais on a senti quand même une certaine exaspération dans le discours de docteur Francoeur au cours des derniers jours, particulièrement sur la question de la disponibilité du matériel médical. Donc, on va faire le point avec elle et plein d'autres très bons invités.
C'est certain qu'on veut pas semer la méfiance chez les gens. On ne veut pas que les gens perdent confiance dans leur gouvernement. C'est sûr et certain. Ce n'est pas le temps de faire ça, mais on a le droit de poser des questions, comme tu l'as écrit, Jonathan. Je remercie mon équipe de choc. Hugo Veilleux, merci beaucoup. Alexandre Moranville, Wallet, merci. Achille Moinet, merci beaucoup. On t'écoute, bien sûr, Sophie, à midi.
Hey, Sophie, tantôt, je veux te dire, là, vous êtes un couple que j'adore, puis on se côtoie de temps à autre en dehors de notre vie professionnelle. Puis tu m'as tellement fait rire tantôt quand tu as donné les numéros de téléphone, puis là, le petit commentaire, parce que toi, Richard, tu les donnes toujours trop.
Ben oui, c'est vrai. C'est ça que... Mais si j'étais en Malaisie, je me ferais chicaner par le gouvernement.
Jonathan, le nombre de fois là, où... Regarde, viens m'aider à faire le souper. Là, je coupe les carottes, Non, c'est pas comme ça qu'on coupe les carottes. Okay, t'es coupes trop épaisses. Il faut que t'es coupes plus minces. Là,
trop épaisses.
Tout le temps. Là, okay, je vais te raconter. Ça finit tout le temps. Je lâche le couteau là, puis je dis, OK, mais fallait tout seul là-bas.
Ben oui, c'est sûr. Parce que moi, j'ai pas le loisir de dire, fais-le tout seul. OK, je vais juste finir là-dessus. L'autre jour, on prépare du poulet. Martino, il sait pas, lui, que du poulet cru, c'est super dangereux, puis que tu peux faire des intoxications alimentaires. Oui, il le sait pas. Fait que là, il sort le poulet, puis il met ça sur un truc, puis il prend le couteau, puis il met le couteau avec les autres couteaux. Puis j'ai dit, ben non, Richard, quand tu prépares du poulet, tout ce qui a touché au poulet cru, faut que ça touche à rien d'autre après, puis toi, faut que tu te laves les mains après. Là, il a dit, ah ben, c'est comme ça, fais-le tout seul, ton souper. C'est ça, comme ça qu'est mon chum.
On t'écoute, Jonathan. Passez un bon week-end,
on
tout
vous
le
aime,
monde.
Salut,
Curie. Et c'est ainsi qu'en un moment, on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.